Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Et à l'Assemblée, ici présente, évidemment.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Salut.
Alors,
salut, oui, si tu veux.
Podcast 509, émission 509 de Gameblog, sur toute l'actualité de la semaine. Avec Plume à ma gauche.
Ouais.
Qui squatte la place.
Ouais.
Johnny One, de
bonjour.
Retour. Ça va, Johnny One?
Ouais, ça va, tranquille.
Tranquille, t'es en vacances?
Ouais, c'est les vacances.
Bah, tiens. Et Camille, qui revient
salut.
Des States aussi.
Exactement.
Voilà. Et qui revient sur le podcast. Qui va nous raconter plein de choses sur Star Wars, entre autres. Et puis voilà, donc le tour de l'actualité cette semaine. Il y aura pas mal de petites choses, hein, mine de rien, ça commence un petit peu à s'exciter cette fin d'année.
Comme toi.
Exactement. Donc évidemment, le win, le fail. Ensuite, la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog avec des choses très très bizarres. On s'en dit pas plus. Le thème number one qui sera évidemment centré sur Star Wars. Avec Camille qui va nous dire ce qu'il a pensé de Fallen Order, entre autres. Puisqu'il a pu y jouer aux États-Unis la semaine dernière. Le thème numéro 2 est 2 bis. Voilà, c'est comme ça qu'on les a appelés. Ça sera sur deux gros jeux, deux gros RPG. Outer Worlds par Johnny One.
Tout à fait.
Qui a bien kiffé. Et le fameux Disco Elysium que Plume a super kiffé aussi.
Ah, plus voilà. Que ça même.
Voilà, plus que ça, vous vous rendez compte. Le thème numéro 3, ça sera sur la Paris Games Week qui approche. Donc on fera un petit peu le tour de ce qu'on pourra voir sur place. Avec pas mal de jeux chez les éditeurs et des présentations, des choses comme ça. Enfin bref, il y a beaucoup de pages, vous avez vu, parce qu'il y a pas mal de jeux. Et ensuite, il y aura évidemment les rubriques anniversaire et hors-jeu sur lesquelles nous reviendrons à la fin de ce podcast, évidemment. Mais on commence tout de suite par le win, et ce premier win, évidemment, c'est Plume qui va nous en parler.
Ah bah oui, je peux vous en parler.
De quoi s'agit-il ?
Ça fait plaisir, comme on dit. Bah, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'Internet Archive. Tu sais, ce site qui s'amuse à répertorier à peu près toute la connaissance humaine sur un seul endroit de l'Internet. Et parmi les choses qu'il essaye de préserver, parce que c'est vraiment un devoir de préservation que fait Internet Archive.
Avant
d'ailleurs, on dit Internet Archive en anglais.
Archive.
Bah, il y a de la musique, il y a des films, etc. Mais aussi des jeux vidéo. Et régulièrement, ils mettent à jour leur base de données de jeux auxquels on peut jouer gratuitement sous navigateur. Et là, début octobre, mi-octobre, ils ont mis plus de 2500 jeux MS-DOS jouables sur navigateur. et ça fait un paquet de jeux, hein, je vous le dis tout de suite, qui sont arrivés. Il y a quelques merdes.
Déjà Micro Machine 2 qu'on voit à l'écran, c'est trop bien.
Évidemment,
flashback.
Évidemment, il y a quelques merdes, je ne vous le cache pas.
Oui, il y a plein de bons jeux aussi.
Des trucs un peu obscurs, des démos pourris. Mais il y a aussi des jeux absolument légendaires. Je vous les avais mis dans la news pour la plupart de ces titres qui sont intemporels. Vous pouvez encore y jouer aujourd'hui. Je parle de Loom, par exemple, de Lucasfilm. Monkey Island, évidemment. On a The Bard's Tale, le premier The Bard's Tale, évidemment. Mm. On a Tiger Road. Les Incorruptibles d'Océan, qui est un jeu extraordinaire qui a fait une bonne partie de ma jeunesse sur Amiga. Tintin et le Temple du Soleil. Les Trois Stooges, si pour les gens qui connaissent, voilà, Night Trap aussi qui est jouable. Oui. Alone
Descent,
in the Dark,
je me souviens que j'avais fini
l'original de Alone in the Dark.
Et bien sûr, Stunts qu'on voit à l'écran là, mais quel chef-d'œuvre!
Stunts?
Ah ouais,
bah, je connais pas, je connais Stunt Car Racing, mais Stunts,
oui,
je connaissais pas. Ah bon, c'est
oui,
l'adaptation?
Oui,
d'accord.
Les titres en anglais, pardon.
D'accord. Donc Captain Blood aussi,
ouais.
Enfin, il y en a. Tellement et tellement que bah, ça vaut
2500,
le coup
hein.
Voilà. Ouais, qu'il faut aller absolument jeter un œil à la liste. Alors par contre, il y a un truc qu'ils savent pas faire, c'est faire des listings
propre,
clairs,
tu veux dire.
Propres, ouais. Et dans lesquels on n'a pas besoin d'attendre que ça charge pendant 10 secondes avant que le scroll affiche quelque chose de nouveau. Cool. Donc ça, ils sont pas très bons pour ça sur Internet Archive, mais
par contre,
vraiment...
c'est facile de retrouver un jeu ou pas? Ou pas forcément?
Pas forcément.
Ils ont pas un moteur de recherche surpuissant?
Pas surpuissant, non, pas
d'accord.
Du tout. Bah, là, on a du Eye of the Beholder. Lands of Lore, pardon, excusez-moi.
Magic Carpet juste avant là.
Ça ressemble beaucoup. Il y avait Magic Carpet, ouais. Quelle classe, Bullfrog, c'était aussi
un grand jeu.
Molineux, ouais. Absolument. Au niveau des droits, ça se passe comment?
Ah bah je sais pas.
Je crois que c'est libre de droit maintenant.
Je crois que c'est gratos, ouais. S'ils ont pas trop de soucis. Après, il y a des jeux qui étaient déjà en abandonware auxquels tu peux jouer évidemment en passant par des DOSBox,
oui, voilà.
Ou autres.
Il y a des licences qui sont encore actives quoi.
Genre on a vu du Doom, des trucs comme ça, du Wolfenstein,
Settlers.
Oui, mais est-ce que c'est justement c'est pas le côté on archive.
Ouais, je pense qu'on les laisse tranquilles,
donc on a le droit de faire ça. Peut-être que c'est ça.
Je pense qu'on les laisse tranquilles et
voilà,
que c'est pas
parce que c'est pour la bonne cause entre guillemets quoi.
Exactement. Donc voilà, vous allez sur, génial, hein, sur le site.
Par contre, faut pas forcément un gros PC du coup, parce que c'est des trucs qui font quelques cas et c'est que dalle.
Rien du tout. Ah, il y a quelques jeux qui sont vieux, mais c'est des trucs qui tournaient sur Pentium. Donc,
voilà,
ou 486.
Des jeux d'il y a 30 ans, ça devrait tourner aujourd'hui, quoi, sans problème.
Donc voilà, n'hésitez pas et allez jeter un œil sur Macho, qui est un grand jeu de Silmarils auquel j'ai joué très longtemps sur mon Amiga aussi.
Quelle classe.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ce win. Effectivement, c'est super intéressant. Hein. Si vous connaissez pas un peu. Si vous aimez un peu l'histoire du jeu vidéo, bah allez-y, hein, faire un tour.
Oh oui.
Vous allez comprendre ce qu'on avait vécu il y a 30 ans sur Joystick et compagnie. Comment ça se passait. Merci pour ce win, Plume. Maintenant, on va passer au fail avec un certain Johnny One.
Eh oui, tout à fait.
Quel est le fail cette semaine?
Eh bien, fail, c'est une manœuvre incompréhensible de la part de Sega qui fait quelque chose pour rendre service aux collectionneurs, entre guillemets, mais qui se
comme
plante
toi.
Lamentablement dans sa démarche. Alors, vous vous rappelez de Sonic Mania, hein? Ce
non.
jeu,
non,
vous vous en souvenez plus?
Non,
non,
si, moi, je m'en
c'est vrai. C'était Angel, je crois, qui avait fait le test sur Gameblog.
Oui,
Sonic.
Il avait adoré, mais en même temps, et à juste titre, puisque le jeu reprenait toutes les mécaniques des jeux Mega Drive de l'époque. Il arrivait même à se montrer innovant. Enfin, bon, bref, on en prenait plein les mirettes. Et c'était, selon ses mots, il me semble bien, le meilleur Sonic depuis, bah voilà, depuis ces épisodes-là. Mm-hmm. Depuis ces vieux épisodes Mega Drive. Et donc, on avait eu droit à une petite réédition de ce jeu qui s'appelait Sonic Mania Plus. Mm. Plus, puisqu'il y avait bah, plus de niveaux, plus de personnages jouables, etc. Ce Sonic Mania Plus était même sorti en boîte. Voilà. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, bah, ces gars, qu'est-ce qu'ils nous refont? Ils nous ressortent Sonic Mania, mais sans le plus. Ils nous refont une boîte. Alors que le jeu était déjà sorti, mais donc une boîte qui sera vendue au même prix, mais avec du contenu en moins.
Bah c'est pas mal.
C'est la crise, c'est l'inflation.
Comme coup marketing,
c'est surprenant, ouais.
Ouais, ouais, c'est très surprenant. Donc en fait, on va se retrouver avec un jeu qui va sortir, mais qui va proposer moins de contenu que le jeu qui est sorti l'an dernier pour le même prix. Oui. Oui, oui, on se gratte la tête.
C'est
oui,
un
voilà.
Gros fail. Ouais,
c'est ici pour ça que ça se retrouve dans le
dans le fail. De
toute façon,
alors, soit ils se sont plantés et ils n'ont pas fait exprès, soit
ouais,
ils ont fait exprès et là c'est quand même bizarre.
C'est pas possible, je pense qu'ils se plantent.
Bah c'est voilà, évident. C'est ça. Non, mais peut-être que c'est ça. Le
ne serait-ce que pour le prix, quoi.
Le prix de la baguette qui augmente, hein. Pourquoi pas le prix du Sonic, hein.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait.
Tu veux ton plus, et ben le plus faut le payer.
Faut le payer plus tard. Exactement.
Voilà.
Et faut raquer un peu plus.
Mais bon, ouais, non, c'est pas.
Donc c'était le fail.
Pas très malin de leur part.
Non, c'est un peu bizarre, effectivement, surtout pour les fans de Sonic qui doivent être déçus. Tant pis pour eux, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Bon, à mon avis, de toute façon, ils ont déjà acheté le plus.
Oui,
dernier,
oui. Sinon, faites une pétition. Je sais pas, on sait jamais. Et plus, mais va signer tout de suite.
Non. J'aime
non
pas Sonic, moi,
ah ouais
tu sais.
Il t'a rien fait pourtant.
Bah, si, il est pas bon.
C'est vrai?
Bah, ouais, je trouve okay ça mauvais. Mais c'est tout.
Bah, d'accord.
C'est comme ça.
Pas de soucis, hein.
Ouais. Désolé, hein.
Bah, y a pas de problème. Et si on passait tout de suite à Il y a 10 ans sur Gameblog? Mon cher petit Plume, que
ouais
s'est-il passé il y a 10 ans?
Alors,
sur
j'y mets très bien Thomas, mais j'y arrive jamais. Donc
c'est vrai.
Et oui, mon cher Trazom. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, eh bien, d'abord de Mass Effect 2.
Ah, il a un
et
accent
ouais
comme ça, Mass
non,
Effect
il
2.
Non, il a pas d'accent. Mass Effect 2, il y a 10 ans, on en parlait parce que.
Parce que c'était bien.
Bah parce qu'en fait, à l'époque, les exclusivités, c'était déjà un truc qui faisait un peu. Un peu tiepi, un peu. Qui emmerdait un peu les joueurs.
Ouais.
Et aussi les développeurs. Et à l'époque, il y a 10 ans, le 19 octobre, c'est toi qui signais une news.
Déjà
dans laquelle, eh bien, il y avait une petite bourde qui avait été faite par un community manager de Microsoft, non, de BioWare, pardon,
oui,
qui, dans un déplacement, avait mentionné par hasard l'existence d'une version PS3 de Mass Effect 2, alors que le jeu était prévu jusqu'ici uniquement sur Xbox 360 et PC. Donc il fait sa bourde, tout le monde la reprend, je crois que Gameblog l'a reprise à peu près comme tout le monde en disant oui bah, il va sortir sur PS3 et tout.
Oui, très bon.
Et finalement non, il a rebalancé une note pour dire que non en fait pas du tout.
C'était une erreur,
il ne sort pas sur PS3, il ne va sortir que sur Xbox 360 et PC le 26 janvier en Amérique du Nord et le 29 en Europe. Évidemment, Mass Effect 2 sortira un an plus tard sur PS3. Et finalement, ça sert pas à grand chose de vouloir cacher ce genre de
exactement
truc.
En général, c'est plutôt, ouais, comme tu dis, de damage control. Donc, du coup.
Bah voilà, quand on pense qu'aujourd'hui, avec
c'est fait.
L'Epic Game Store, on les embête parce qu'il y a des exclusivités temporaires, etc. Bah déjà, à l'époque, vous voyez, ça posait déjà des problèmes de dire qu'un jeu qui, c'est vrai, était né sur Xbox 360, allait arriver un jour sur PS3. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie.
Et
on n'y peut rien.
Dit,
Absolument. Et là, tout est dit, comme tu le dis si bien à la fin de ta news.
Deuxième news d'il y a 10 ans.
Bah, la deuxième news d'il y a 10 ans, ça concerne Fable 3. Alors, souvenez-vous, il y a 10 ans, on parlait non pas de Kinect, mais de Projet Natal. Oui. Projet Natal, c'était cette technologie révolutionnaire avec laquelle nous allions pouvoir interagir, par exemple, avec un petit garçon dans l'écran qui s'appelait Milo, si vous vous rappelez
bien. Qu'est-ce que c'était
bien. Et c'était une des promesses de Peter Molyneux de pouvoir nous laisser, grâce à Kinect, enfin, à Natal, pardon,
interagir,
faire des trucs incroyables en parlant à une caméra. Et puis, bah,
en fait,
bon, on sait ce qu'est devenu Kinect par la suite, mais surtout, il avait promis à l'époque, quand il était passé directeur créatif de Microsoft Games, que Fable 3 allait être compatible avec Natal. Voilà. Et c'était vraiment un grand renfort de déclaration, de certitude. Oui, oui, on va faire des trucs. Et non. Voilà, encore une fois, c'est un et non pour Fable 3 qui finalement sera pas compatible du tout avec Kinect. D'ailleurs, peu de temps avant, Molyneux reviendra sur ses paroles en disant bah non, en fait, on sent que Fable et Kinect, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon moment, moi j'y crois pas trop, etc. On sentait déjà qu'il s'est essayé de se distancier de la technologie proposée par Microsoft avec la caméra. Donc, encore une fois, non.
Ouais. Pourtant, Kinect a très bien marché. Hein,
mais non. Ah bah oui, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires,
ouais,
c'est
quelque
ça
chose comme ça. Ouais.
Donc oui, ça a bien marché, mais Fable 3 n'en a pas profité finalement.
Voilà. Alors soit il a loupé le coche et le train, soit je sais pas, on l'a mal aiguillé, j'en sais rien.
Ouais, ou alors il a dit oui, on va le faire, et puis il a vu la technologie, il a fait mais attendez, c'est pas précis ça.
Ouais.
Fais voir un peu ton truc.
C'est possible aussi.
Puis il a lâché l'affaire.
Exactement. Tout à fait. Alors, troisième news d'il y a 10 ans sur Gameblog.
Ah, mais c'est un troisième oui mais non.
Ça concerne Bruce Willis. Encore un oui mais non.
Ouais, ouais, exactement. C'est la thématique de ce 10 ans, c'est que c'est oui mais non. Bah, il y a 10 ans, en fait, on apprenait par un des producteurs d'un film en préparation qui était l'adaptation de Ken and Lynch, jeu de Yo Interactive qui n'était pas extraordinaire mais qui avait une ambiance, on va dire, plutôt sympathique et qui a vite intéressé Hollywood. On apprenait que Bruce Willis, qui était prévu pour jouer un des deux personnages, eh bien, avait lu le script. Un truc de fou. C'est-à-dire que...
qu'il avait même signé.
Il avait adoré, en fait. Mmh. C'est carrément ça. C'est ce que disait en tout cas Adrian Ascarié, que Bruce Willis avait adoré. Et que c'était un des meilleurs de scénarios d'action qu'il ait jamais lu. Donc Bruce Willis, forcément, en film d'action, il s'y connaît. Sauf que, bah ok, il devait jouer Kane, Jamie Foxx ensuite devait jouer Lynch, et puis ensuite, et bah plus rien. Voilà, donc depuis,
ensuite,
depuis 2009, et bah on ne sait toujours pas ce qui est devenu le film Kane and Lynch qui aurait dû être réalisé par
Simon
Crane. On
ne sait pas ce qui est devenu le jeu vidéo non plus. Hein.
Si, il y a eu la suite en 2010 ou 2011, je crois, où c'était filmé façon...
Oui, ils ont fait une suite.
Façon téléphone portable, si je me rappelle. Mais c'était toujours pas génial.
Non, je crois pas
dommage.
Qu'il a reçu les faveurs du public.
Bah non.
Moi, j'avais bien aimé le premier jeu à l'époque. Hein.
Oui, c'était,
j'avais
c'était
fait
original,
sur 3.6, on l'avait fait, bon, ça aide beaucoup, je l'avais fait en coopération à l'époque.
Oui, oui, bah oui, c'est ce qu'il faut.
Voilà. Non, j'avais trouvé ça pas si mal que ça.
L'ambiance était sympa, et puis après on a pu les revoir dans Hitman Absolution aussi, les deux persos. Vite fait, ils ont créé un petit univers autour d'eux qui est plutôt cool, mais malheureusement...
Ils ont un peu lâché la licence.
Bah ouais, et puis le film...
Adios.
On l'attend toujours.
Plus de films. Eh bien, parfait, merci pour cette rubrique d'il y a 10 ans sur Gameblog, avec ces anecdotes toujours rigolotes 10 ans après. Et si tout de suite, les amis, on passait au tome number 1, et là, ça rigole pas. Thème numéro 1, Star Wars Jedi Fallen Order. Et Camille a eu la chance de voir.
Ouais, j'ai pu le voir et surtout y jouer pendant 3 heures.
Et bien sûr, tu as joué, forcément.
Alors, du coup, moi, j'y suis allé, c'est vrai que de base, je suis fan de Star Wars.
Ouais.
Mais
juste
je suis
un peu,
allé
ouais.
avec, enfin, totalement de manière objective, d'autant qu'en plus, je n'avais pas forcément. Le jeu n'avait pas vraiment soulevé mon attention, en fait. Pour des raisons, voilà, le trailer m'avait pas spécialement intéressé. Et pourtant, honnêtement, j'ai plutôt été charmé par ce que j'ai vu. Donc j'ai pu y jouer 3 heures. Et si je devais faire vraiment un gros résumé de ma démo, je dirais que c'était un peu un Tomb Raider version Star Wars. Parce que c'est vraiment,
Dis-moi qu'il y a aussi un peu d'Uncharted quand même. Parce que...
Ouais, oui, il y en a.
Parce c'est... que moi je veux qu'il y en ait un petit peu. Donc...
Si.
Et sur les vidéos que j'avais vues avant, ça faisait.
On va pas se mentir, hein, le jeu a beaucoup de sources d'inspiration.
Oui, voilà. Ils ont pris un peu les meilleurs trucs de chaque truc. De
exactement.
Chaque, jeu,
et... Du Tomb Raider, du Uncharted et du Sekiro pour les combats. C'est un peu les trois sources d'inspiration pour ce Fallen Order.
Est-ce que ça colle du coup? Est-ce que ça marche?
Eh ben, ça marche plutôt bien. Alors déjà, au niveau du scénario, donc ça se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4, une période qui est du coup très peu exploitée. Pour l'instant, puisque comme on sait, il y a notamment la série The Mandalorian qui va revenir sur cette période, mais qui reste assez peu exploitée finalement dans le jeu vidéo notamment, avec un passage donc du nom de Cal, qui est un Jedi qui a échappé de justesse à l'ordre 66, donc l'ordre d'exécution des Jedi par l'empereur Palpatine. Et ce jeu, il va notamment nous faire rencontrer des personnages qu'on a déjà rencontrés dans l'univers Star Wars, notamment, alors j'ai oublié son nom, le personnage qu'on découvre dans Rogue One.
Ah, le Che Guevara, ouais. qui a plus de jambes, là, par Forest Whitaker.
J'ai oublié son nom.
Ça ressemble à Che Guevara, justement, son nom.
Je peux pas vous aider, j'y connais rien.
Enfin, peu importe, en tout cas, il y a pas mal de clins d'œil donc aux épisodes tels que Rogue One. D'ailleurs, dans l'atmosphère générale, il y a beaucoup d'inspiration Rogue One, puisqu'en fait, on a un équipage qui nous accompagne, un peu comme c'était le cas aussi dans Star Wars KOTOR. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration KOTOR déjà au niveau des Easter eggs et du fan service, puisque qui dit Star Wars, qui dit sabre laser, il y a plein de choses qui vont nous rappeler KOTOR. Notamment, une chose qui m'a bien fait plaisir, c'est la possibilité de customiser son sabre laser. Alors il y a des choses que j'ai pas le droit de vous dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible de changer le manche, possible de changer la couleur du sabre tout le long de l'aventure. En fait, un peu à la Tomb Raider, on va trouver des choses, des composants un peu partout dans les environnements, et ces composants vont nous permettre d'améliorer notre sabre laser. Sinon, le personnage en lui-même est découpé en trois parties distinctes. Il a un arbre technologique, un arbre de skill découpé en trois. Donc il y a la survie, le sabre et la force. Niveau force, rien de surprenant. Hein, c'est un peu comme se faisait le pouvoir de la force déjà. Jedi Academy, c'est-à-dire des poussées de force, des attractions, du lancer de sabre, etc., etc. Sabre laser, évidemment, ça va être tout ce qui est combo, des charges au sabre laser, plus de dégâts, etc., etc. Et la partie survie concerne pour le coup tout ce qui est stamina, santé du personnage et ainsi de suite. Donc déjà en soi, on retrouve vraiment un aspect Tomb Raider. Ça sert vraiment déjà par ça, puisque dans Tomb Raider, si mes souvenirs sont bons, le premier remake, l'arbre de compétences était aussi séparé en trois.
Ouais, absolument.
Donc voilà, déjà vraiment cet aspect là qu'est-ce qui me fait rappeler aussi Tomb Raider, c'est le coup des feux de camp, puisque là ça va pas être des feux de camp, mais c'est des points de prière, des points de méditation qui vont permettre de récupérer sa vie, de changer son équipement, modifier son armement, etc., etc. Donc voilà, c'est un aspect très Tomb Raider là-dessus. Après, pour l'équipement lui-même, pour ce qui est des skins, pas besoin de passer par le coin de méditation, puisqu'en fait les skins à la volée, tu peux les changer directement en appuyant sur j'ai joué sur PC, donc appuyant sur échappe, mais en gros sur le menu pause, quoi. Le menu du personnage, alors que pour le coup les sabres laser, il faut passer par son vaisseau spatial, puisqu'on a une table de craft à l'intérieur. Donc voilà, c'est un gros aspect Tomb Raider, aussi pour les phases d'exploration, puisqu'en fait le jeu va habilement nous faire passer de phases d'exploration à des phases de puzzle, à des phases de combat. L'exploration, c'est vraiment un gros morceau du jeu. D'ailleurs, il y a un petit aspect Metroidvania, en ce sens où on va devoir retourner sur les planètes, puisque le jeu propose de naviguer à travers différentes planètes. Alors pour l'instant, j'ai vu une planète exclusive au jeu, la planète Zepho, la planète Kashyyyk, donc la planète mère des Wookie, et la troisième, qui est la planète d'Atomir, qui est habitée par les Sœurs de la Nuit. Ce sont pas des Jedi, ce sont des femmes qui maîtrisent le côté obscur, mais ce ne sont pas des Sith ni des Jedi. Et donc cette planète là, pour l'instant, c'était selon les développeurs, c'est la planète la plus complexe, la plus ardue, celle où on va retrouver le plus de challenge. Et donc on va devoir y retourner sur ces planètes. Alors après, n'ayez pas peur, on va pas faire des centaines d'allers-retours, hein. Techniquement, d'après ce que nous ont dit les devs, parce qu'en fait on avait des interviews, mais on a suivi des devs qui étaient à côté de nous pour nous accompagner lors de notre session de jeu. Et d'après donc le dev qui était pas loin de nous, il m'a certifié que deux allers-retours, ça serait vraiment grand maximum. On n'allait pas devoir retourner plusieurs fois sur la planète. Alors les allers-retours, en fait, se font pour une simple et bonne raison, à cause des pouvoirs, l'amélioration de notre personnage, puisque par exemple au fil de notre aventure, on va par exemple débloquer un pouvoir de poussée de force, et ce pouvoir de bouffée de force va nous permettre de détruire des murs. Et donc forcément, bah, on va revenir sur les premières planètes, du début du jeu,
qui étaient indestructibles.
Voilà, où les endroits étaient indestructibles, ouais, exactement. Et d'autres planètes, ça va être pas des pouvoirs à cause des pouvoirs, mais à cause du scénario tout simplement. Il y a un personnage qui va nous dire un peu plus tard, ah bah au fait, sur cette planète, il y a tel ou tel secret. Et bah ça serait bien que tu y retournes. Et du coup, tu y retournes et tu vas trouver un holocron avec des secrets Jedi, etc., etc., d'accord, qui vont nous faire avancer dans le scénario. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour l'exploration, il y a aussi les phases de puzzle. Alors la phase de puzzle qu'on a vue, c'était sur Zepho, et en fait c'était un, sans rentrer dans le spoil, hein, c'était un système en fait de boules en pierre qui étaient éparpillées dans le niveau. On devait toutes les réunir pour les placer sur des espèces de boutons qui permettaient de faire coulisser des portes, tout simplement. Mais en fait, c'était pas forcément si compliqué que ça à comprendre. En fait, la complexité du truc venait du fait que le jeu nous aiguille pas en fait sur le parcours à prendre. C'est-à-dire qu'on est un peu lâché dans la nature, on sait pas vraiment parfois où est-ce qu'on, à quelle sauce on va être mangé, on sait pas vraiment où aller en fait, puisque le jeu bah nous propose plusieurs chemins. C'est pas un monde ouvert vraiment comme dans un Witcher, mais c'est un monde semi-ouvert, on va dire, où on va on va devoir trouver notre chemin par nous-mêmes, et vraiment le jeu nous donne aucune source d'indication. Il n'y a pas de minimap, il n'y a rien du tout pour nous aiguiser là-dessus.
Mais par contre, on est d'accord que ça sera toujours le même chemin pour arriver à ses fins, quoi.
Alors,
où tu pourras prendre plusieurs.
Non, il y a plusieurs chemins.
Plusieurs
après,
endroits,
ça reste des chemins assez couloirs.
Oui, c'est ça.
C'est pas, tu vas pas élaborer une stratégie pour vaincre tes ennemis.
Ah, d'accord.
Mais par exemple, à certains moments, je sais pas, t'as le choix entre prendre une plateforme et prendre une autre plateforme. Ça s'arrête là, mais c'est déjà pas mal puisque ça permet de d'attaquer certains ennemis par exemple de haut ou alors de front, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique. T'avais un truc à dire? Non, je suis pas.
Non.
Ah, excuse-moi.
Parce que j'ai la lampe dans les yeux, alors j'aime bien regarder comme ça, sinon je vois pas grand-chose.
Et du coup, ouais, donc les phases de puzzle game, phase d'exploration et phase de combat. Les phases de combat, comme je disais, elles s'inspirent beaucoup de Sekiro, donc on a un ensemble de combos qui vont se faire. On est à la troisième personne, il n'y a pas de mode première personne, donc ça, déjà, ça change par rapport à un Jedi Knight ou un Jedi Academy. Et contrairement à un Jedi Academy aussi, où en fait, on bourrinait les touches et c'était finalement le bourrinage le plus simple qui se faisait et qui pouvait te permettre de tuer l'ennemi. Là, on a des combos qui se mettent en place et ça permet d'assister à des choses plutôt jolies quand on est fan de Star Wars. On va par exemple, je sais pas, faire une prise à un Stormtrooper, ensuite lui asséner un coup de sabre. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment très très fluides. Les combats sont vraiment très fluides et ça c'est plutôt sympa. On va se battre pas uniquement justement contre des troopers, mais aussi contre des Sith. Alors, j'en ai pas rencontrer moi dans mon aventure, mais on va se battre aussi contre des créatures, et ça je vais venir au premier point négatif, c'est qu'en fait les créatures qu'on rencontre, alors là pour l'instant c'est des rats géants et des espèces de chèvres des montagnes. c'est pas très Star Wars, mais voilà,
c'est super original.
On a la possibilité de les découper. Il y a un système de démembrement qui est présent, alors quand on rencontre un trooper, et ben étrangement le démembrement n'est plus présent. Alors certes on comprend ça parce qu'ils veulent pas que le jeu soit PEGI 16 ou PEGI... D'ailleurs, je crois qu'il est déjà PEGI 16.
Ouais.
Qu'il soit PEGI 18 ou autre, ou même interdiction ou je ne sais quoi. Mais ça, en termes immersifs, ça pose un gros problème parce que du coup, pourquoi pouvoir découper une créature et pas pouvoir découper un trooper alors qu'on utilise le même sabre laser. Enfin bref, il y a un truc qui est assez vite de sens là-dedans et on comprend vraiment pas pourquoi. Pour être grossier, on sent que EA a pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout et de faire vraiment un truc.
Disney leur a donné des directives aussi.
Ouais, mais du coup, les directives n'ont pas de sens. Pourquoi le faire sur des créatures et pas des troopers?
Ah, parce que c'est un jeu vidéo. Enfin, après, c'est Disney, entre Disney et ceux qui détiennent la marque ou les développeurs, ils se disent non, c'est un jeu vidéo, c'est interactif. Si tu commences à découper des êtres humains, ça va pas bien se passer.
Ouais,
c'est des clones. Enfin, non,
en
c'est
tout
plus
cas, le choix est curieux et honnêtement, c'est.
Oui, ça reste assez absurde.
C'était déjà le cas dans le pouvoir de la force.
Dans le pouvoir de la force,
tu découpais les droïdes et tu découpais pas les.
Ouais, mais un droïde à la limite, c'est pas un être vivant, tu vois. Alors que là, tu découpes des créatures, quoi. Enfin, tu découpes des êtres vivants. Donc c'est vraiment, c'est assez étrange. Après, voilà, ça fonctionne quand même plutôt bien.
Les jeux Star Wars sont pas tous égaux à ce niveau-là, au niveau de la représentation de la violence.
Comme les animaux, ils sont pas égaux.
Et après, je les imagine aussi, c'est que là, dans un genre de jeu d'action un peu comme ça, action-aventure, ça risque d'être un peu too much, en fait. C'est-à-dire que tu risques de découper tous les gars que tu croises. Et c'est
non,
bon.
Mais ça peut être. Non,
tu comprends, on n'est pas non plus dans Ninja Gaiden, quoi.
Non, mais ça peut être un peu
mieux, tu vois. Mais de là, carrément tout supprimer, les démembrements, ouais, non, je trouve ça nul aussi.
Tiens, ça va être.
Ils auraient pu laisser la possibilité sur un combo, genre, je sais pas, tu fais une Fatality.
Le coup spécial.
Surtout
des
Fatality, on a. Parce que les Fatality, tu les fais à gogo, en fait, sur les Troopers, etc. Donc bon.
Surtout qu'un sabre, ça découpe, quoi. Tout simplement, les sabres laser, ça laisse. Ça cautérise la plaie directement, ça découpe tout ce que ça, tout ce que ça croise. Donc c'est ça qui est un peu étrange, mais après, bon, est-ce que ça rend le jeu pourri?
Non, ça rend pas le jeu pourri, mais ça coupe un peu l'immersion et vraiment, ça nous a tous sur place.
Oui, c'est le côté absurde de la chose.
Ça nous a
soit tu le fais pour tout le monde, soit tu le fais pas.
Voilà, exactement. Non, mais tu fais pas un entre-deux un peu bizarre comme ça, quoi.
C'est pas un précurseur en la matière, malheureusement.
Ouais.
Ou alors ils ont des exosquelettes de ouf hyper solides et du coup.
Ah, c'est peut-être ça alors l'explication.
Après le sabre laser, bah il sert pas qu'à découper ou tuer, puisqu'on peut s'en servir aussi
pour faire du feu.
pour allumer certains environnements, parce qu'en fait il y a des environnements qui sont très sombres.
Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il lève son bras.
Ouais, il lève son bras juste pour, en fait, c'est simplement pour s'éclairer. Et ça apporte un côté immersif comme Tomb Raider faisait, enfin comme Lara Croft faisait avec ses bâtons lumineux. Bah on retrouve un peu ça, mais avec son sabre laser. Et ça marche vraiment bien. L'exploration elle passe aussi par des phases vraiment.
Des phases de grimpette, la corde, ça c'est une charte direct.
Même si c'est très classique, ça te dit pas non?
Prince de Perse, ouais.
Et ouais, Assassin's Creed. Enfin, en fait, c'est très classique, franchement, dans l'exploration. On va retrouver des passages où on doit s'agripper à une corde, des passages de plateforme. Bah, ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ça dans les jeux Star Wars. On a bouffé dans le pouvoir de la force, on avait déjà.
Alors que le mec, il pourrait voler et un claquement de doigts, il se retrouverait à l'autre bout de la carte.
Les Jedi ne peuvent pas voler.
Bah ouais, c'est pas grave, ils peuvent faire des trucs.
Leïla, elle y arrive presque. Hein.
Oui, c'est vrai, mais elle est morte. Enfin, elle est à moitié morte, ouais.
Oui, mais bon, c'est dans d'autres conditions.
Attention au spoiler.
Ouais.
Hein.
Ouais, est-ce que les spoilers marchent après un an, je sais pas. Bon, bah peu importe. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais, les phases d'exploration sont assez basiques, mais ça fonctionne plutôt bien, quoi. Malgré tout, il y a eu quand même quelques bugs. Alors des bugs qui nous ont, parce qu'on.
T'as juste un truc, t'as joué sur quelle machine, toi, exactement?
Alors moi, j'ai joué sur un PC, PC en fait. Ouais.
De guerre.
Ouais, un PC de guerre, ouais, honnêtement.
Parce que là, si c'est les images du PC là qu'on voit défiler depuis tout à l'heure, c'est quand même
C'est costaud, hein.
sacrément impressionnant.
Bah, ça tournera pas pareil sur PS4.
Tiens, t'as même des chauves-souris.
C'est impressionnant techniquement et artistiquement. Alors techniquement, déjà parce qu'il y a vous voyez très bien, c'est des très beaux effets de lumière.
Et du RTX.
Ils ont vraiment. Alors ils ont pas annoncé de RTX pour l'instant, mais il y a des très beaux effets de lumière à tous les niveaux. Les textures aussi sont vraiment très jolies.
Tiens,
c'est vraiment un faux pas en termes techniques, en termes artistiques. C'est sympa aussi, ça fait honneur à Star Wars, hein. Après faut pas s'attendre à, c'est pas extraordinaire non plus au niveau artistique, mais ça marche plutôt bien. Moi le seul truc que j'aurais à redire, ce serait au niveau du caractère design, notamment du personnage principal. Alors je sais que ça, on a beaucoup parlé depuis l'annonce du jeu, c'est quand, c'est à l'E3 l'année dernière, je sais plus, enfin depuis le premier, tout premier trailer. L'acteur est sûrement très charismatique dans les séries, etc., notamment dans Gotham, mais en tout cas dans le jeu il ne l'est pas du tout, et honnêtement ça
casse un peu le truc.
Ça casse vraiment, mais vraiment. Quand le mec, la manière dont
c'est
il est designé.
C'est quel acteur de Gotham?
C'est le mec qui fait
tiens,
le Joker.
Tiens, les rats géants. Ils sont là.
Honnêtement, les rats géants, vraiment, on le voyait là.
Oui, j'ai vu.
Honnêtement, dans le jeu, ça, le pauvre, il manque vraiment, vraiment de charisme, quoi. Et le pire étant, alors dans les trailers, enfin, dans les cinématiques. Ça passe à certains moments, mais quand tu tournes la caméra vers son visage, c'est une catastrophe, mais vraiment.
Et pourquoi? Est-ce qu'il est trop jeune pour ce rôle?
Pour plein de raisons, en fait. Déjà, moi personnellement, et je suis pas le seul à penser, l'acteur manque de charisme, voilà, c'est un fait.
C'est qui l'acteur déjà?
Je connais pas son nom, je sais juste qu'il joue dans Gotham et dans d'autres séries.
Monaghan, j'ai son nom de famille, mais j'ai pas son prénom.
Et je reviens dessus, parce qu'on me l'a souligné dans une news, c'est pas une question de beauté. Parce que tu peux.
Oui, tu peux être boche et avoir un peu de charisme.
Ça,
hein.
C'est pas ça, une question de beauté. Vraiment, il y a un truc qui ne va pas sur son visage. Et ça, c'est encore plus visible vraiment dans les phases in-game. Quand c'est vraiment des cinématiques, ça passe encore, mais in-game c'est vraiment gênant. Et pareil au niveau du jeu d'acteur, c'est pareil, je trouve pas flamboyant, quoi. Ils ont loupé le coche sur le héros, quoi. Ils auraient pu.
Ils auraient
un truc
mieux fait de garder l'apprenti.
C'est Cameron Monaghan, son nom. Voilà.
Il y a un truc qui ne va pas. Après les autres personnages, notamment l'équipage, c'est beaucoup mieux. notamment les noms je les ai pas retenus, hein, de l'équipage, je vais pas vous mentir. Donc un extraterrestre qui nous accompagne et une femme qui nous accompagne, et ces deux personnages sont plutôt cool et plutôt sympas, plutôt bien campés. Mais ils ont fait vraiment le générique au possible. On n'aurait pas pu imaginer pire en termes de perso quoi.
Et par contre, qu'est-ce qu'il a sur son dos déjà, le petit robot là, c'est quoi?
Alors en fait c'est un droïde qui nous accompagne, qui nous permet d'éclairer les environnements de temps en temps.
C'est ce qu'on voit à l'écran, là.
Il sert de HUD un peu aussi.
Il sert pas de HUD. En fait il sert à scanner l'environnement.
Parce qu'il bouge à chaque fois en fonction.
En fait, il bouge et puis il réagit à ce qui se passe autour de soi. Il permet notamment de scanner l'environnement et de scanner les ennemis. Puisqu'en fait, le jeu est accompagné d'un. Ça, c'est super quand on est fan de Star Wars, d'une encyclopédie Star Wars qui permet d'avoir des informations sur tous les personnages qu'on rencontre, sur tous les ennemis qu'on rencontre et sur toutes les planètes, etc. Enfin, c'est vraiment cool, vraiment bien pensé et vraiment. Profond et du coup le robot permet notamment de faire ça et il permet aussi d'interagir. Par exemple, il y a certains moments, moi sur la planète laquelle j'ai joué, un endroit qui est trop exigu pour que notre personnage puisse passer, du coup c'est notre robot qui va passer à notre place et qui va nous permettre d'ouvrir une porte. C'est pas fou mais
ils ont trouvé un petit truc à faire.
Ça permet de pas se sentir tout seul en fait et ça apporte une petite plus-value. En plus on le sait, dans Star Wars les droïdes sont très importants. Luke avec son R2D2, enfin voilà, ça avait beaucoup marqué les esprits à l'époque.
Toujours un binôme.
Le côté binôme dans Star Wars est très poussé et là ça marche plutôt bien.
C'est rigolo, Kashyyyk, on dirait.
Ça ressemble à Kashyyyk.
Ouais, et bah c'est Kashyyyk
avec ses arbres géants. Et...
Ouais.
Le robot, on dirait le robot de la NES.
Oui, c'est vrai, ouais.
Ça fait Rob.
Ouais, Rob.
J'ai pas la ref, mais
Rob le robot de la Nintendo.
Ouais. Pour jouer à Gyromite, c'est un petit robot qui faisait descendre des palais.
D'accord.
Enfin bon, c'était assez spécial comme truc.
En tout cas, ce binôme marche plutôt bien. Alors les phases de cordes, il y a des choses que j'ai vues qui vont être résolues, mais qui marchaient pas super bien à des endroits où il y avait pas de skin et tout. Et par contre, il y a un truc qui fonctionne vraiment pas, et ça, malheureusement, je pense pas qu'ils vont le résoudre d'ici la sortie, puisqu'elle est mine de rien, elle est assez proche, elle est le 5 novembre.
Vous êtes trop tard.
15 novembre, pardon, c'est le système de saut. Parce qu'en fait, le système de saut, il est. C'est ce que j'appelle le syndrome Crash Bandicoot, c'est-à-dire que c'est au pixel près, au Tomb Raider les premiers Tomb Raider, et c'est vraiment, vraiment laborieux. En fait, notre personnage, s'il saute pas vraiment vraiment le tout bord de la plateforme, et il va foirer son saut.
C'est logique en même temps.
Non, c'est pas logique dans un jeu en fait.
Dans la vie.
Dans la vie, ouais, peut-être.
Ah, bah voilà.
Mais ça marche pas. On n'a pas la fluidité qu'on aurait dans un AC par exemple, ou même un Uncharted.
Enfin, tu veux dire qu'il faut s'y reprendre plusieurs fois.
Ouais.
Pour
et ça nous a tellement surpris qu'en fait le tutoriel, qui est pourtant un tutoriel, on est tous morts.
Ah ouais.
Au tutoriel, on était 5 journalistes sur place à jouer au tutoriel, on est tous morts et tous les gens autour, que ce soit les autres journalistes, on s'est posé la question, mais what, qu'est-ce qui se passe quoi.
C'est peut-être juste un coup à prendre une fois que tu le sais.
C'est un coup à prendre, mais des fois c'est vraiment laborieux, parce que même quand tu fais du wall jump, il y a des endroits en fait c'est vraiment au dernier moment et ça a pas de sens quoi, parce qu'en fait notre personnage il aurait sauté genre 10 cm avant, il aurait réussi son saut, mais là non, il faut, quand je dis la bordure, c'est même plus que la bordure, hein. C'est vraiment c'est au pixel près quoi, c'est des trucs, c'est improbable, et on comprend pas qu'un Jedi puisse foirer un saut à cause de ça. Enfin, c'est vraiment 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 bizarre comme choix de gameplay, mais bon voilà, c'est un des défauts que j'ai souligné dans le jeu.
Par contre, un autre petit défaut, j'ai l'impression, moi quand je regarde toutes les vidéos, que ça c'est les vidéos que t'as ramené de là-bas, hein, on est d'accord, hein.
Alors c'est pas nos captures malheureusement, parce qu'en fait on n'a pas eu de je vais vous raconter un peu les coulisses, mais en gros on devait avoir des captures et finalement on les a pas eu, enfin bref. Tu disais quoi du coup?
Oui, je trouve que c'est un peu vide, moi, d'ennemis. Ou c'est moi qui délire parce que les vidéos que
Non, je pense que c'est plus les vidéos, parce qu'en fait on ressent pas, c'est vraiment, je t'ai dit, comme dans Tomb Raider en fait, t'as des zones beaucoup d'exploration et des zones où tu vas rencontrer des ennemis. Alors il y a des escouades entières d'ennemis qui vont nous sauter dessus, il y a des boss aussi. Non, le niveau des ennemis c'est pas si vite que ça. D'ailleurs, au niveau des boss, le premier boss qu'on a affronté c'était un AT-ST, c'était plutôt pas mal le combat. Niveau des ennemis, on a du troopers classiques, on a des troopers au corps à corps, on a des troopers au lance-roquettes, au lance-flammes, etc. Et même c'est vraiment intransigeant au niveau des combats à certains moments, puisqu'en fait on va devoir parer, on va devoir faire des roulades, etc. Et parfois contre certains boss c'est assez capricieux et assez compliqué, et on sait pas si c'est nous qui sommes mauvais ou si c'est le jeu qui propose des mécaniques assez étranges, mais en tout cas ça, le résultat est assez satisfaisant et même assez encourageant de ce que j'en ai vu. Après il faut voir ce que ça va donner sur le long terme, mais en tout cas moi les ennemis que j'ai rencontrés étaient plutôt sympas. Alors, et ce robot là,
oui, on l'a vu au tout début,
Gardien du Temple, c'est une catastrophe à tuer. C'est vraiment un sac à PV et c'est vraiment assez problématique. Surtout qu'en fait, il varie avec plusieurs attaques et certaines attaques qui sont vraiment impossibles en fait à parer et impossibles à esquiver. Mmh. Notamment ces boules d'énergie qui sont assez complexes à enlever. En fait, c'est impossible de toutes les esquiver. Quoi. Y a
c'est parce que t'as pas le bon timing.
Ouais, ça doit être
tu
ça.
Peux,
ça
tu peux pas lui renvoyer dessus ? Non.
Si tu peux, mais c'est... par la suite, en fait, quand tu débloques le pouvoir de toute cette force. Mais ah oui, d'ailleurs en parlant de ça, il y a un côté aussi de The Surge dans les combats, et j'ai détesté The Surge, donc peut-être pour ça aussi j'ai galéré au combat de Fallen Order, mais en tout cas c'est très encourageant malgré le côté assez générique qu'on aurait pu craindre. Alors, le personnage reste générique, mais au niveau du scénario etc, c'est un jeu Star Wars qui est très sympathique.
Et pourquoi ils ont choisi entre le 3 et le 4 alors pour le placer
franchement tout simplement pour le scénario, puisqu'en fait ils ont voulu qu'on incarne un Jedi qui sont un peu seuls contre tous, ouais. Où justement il y avait plus de collègues à défendre ou plus de collègues à épauler, qu'on soit vraiment l'un des derniers Jedi, et ça marche, c'est le seul moyen de le faire quoi.
Donc c'est que du solo, on est d'accord.
C'est que du solo, et c'est, voilà, c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est que c'est vraiment un pur jeu Star Wars solo. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu, puisque le dernier mémoire c'était le pouvoir de la Force 2,
qui
était pas excessivement bon.
Il était bon.
Non,
mais si en fait, non. Moi j'y ai rejoué des années après.
Tu m'en avais parlé il y a pas très longtemps.
J'y ai rejoué des années après.
Tu veux essayer de le réhabiliter,
il était beaucoup trop court. Il avait ça malheureusement.
Oui, ça c'est vrai.
Pour lui,
il
tu ne visitais que 3 ou 4 environnements, mais en fait au final il était pas si mauvais que ça.
Ouais, mais le premier était.
Il s'est fait démonter quand il est sorti. Ouais. Et on en garde une très mauvaise image.
Moins bien écrit aussi que le.
Ouais, mais il était vraiment pas si mal. Voilà.
Le Tariesté défait.
Ok.
T'as le combo dont je parlais. Enfin, t'as des trucs vraiment sympas, les finishes et tout. C'est vraiment cool, et surtout c'est fluide. On sent que c'est un jeu Star Wars triple A quoi. T'as des animations qui sont vraiment excellentes pour les combats. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en fait un jeu de Star Wars de sans
couverture.
Ah bah là,
moi je peux dire que je suis pas fan amoureux de Star Wars, mais celui-ci j'avoue qu'il m'étonne plutôt pas mal.
Bah c'est justement le point positif, c'est qu'un pouvoir de la Force 2 par exemple, qui en tant que fan moi j'avais apprécié, ou même d'autres jeux Star Wars qui étaient sortis qui étaient pas excessivement bons, même voire des fois pas bons du tout, mais en tant que fan de Star Wars tu peux apprécier le truc.
Oui, bien sûr. Tu fais fi des petits défauts et tout ça quoi.
Tu fais fi des défauts, mais quand t'étais un joueur classique qui n'aimait pas forcément les jeux Star Wars, qui n'aimait pas l'univers Star Wars, bah c'est assez hermétique. Par contre là, bah même si t'es pas fan de Star Wars, tu peux trouver quelque chose d'intéressant à faire.
Je pense qu'ils veulent toucher un peu le grand public. Là, j'ai l'impression quand même.
Après, malgré tout, il y a quand même beaucoup de fans de service, et c'est super agréable en tant que fan de Star Wars.
Ah bah ça, ils peuvent pas se permettre de changer, c'est sûr. Parfait. Juste un petit mot sur le dernier bande-annonce qu'on a vu de Star Wars.
Ouais, bah moi, le Star Wars 9, tu veux dire ?
Oui, c'est ça, 9.
Ouais, j'ai.
Bah, je me souviens jamais du nom à chaque fois. Donc,
L'ascension de Skywalker.
Ouais, c'est ça, voilà. Autant la toute première bande-annonce.
The Rise of Skywalker.
La toute première bande-annonce, j'avais pas aimé du tout. La deuxième qu'ils ont fait, où il y avait le récapitulatif de toute la saga, c'était vraiment super. Celui qui passe actuellement au ciné. Et le dernier qui est sorti hier, je l'ai trouvé, ma foi, très bon. Mmh. Un peu fouillis. Parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe, mais on sent qu'ils veulent perdre le spectateur quoi.
Ah, ils le font exprès.
C'est vraiment fait exprès. Ouais.
Dans les dernières images, notamment, toutes dernières images, il y a un truc. Tu te dis c'est pas possible.
Ouais.
C'est vraiment pas possible, surtout quand on nous a dit il y a pas très longtemps. Non mais vous inquiétez pas, il est mort, hein, tout va bien. Hein,
il
que
est mort,
là,
qui...
tu vois ça, tu fais non mais il y a un souci.
En fait, il y a un truc. Enfin. Quand t'es fan de Star Wars, tu comprends plus ou moins ce qui se passe, mais la fameuse flotte qui sort de nulle part, impériale.
La flotte perdue de.
Bah, moi,
ça y est, j'ai oublié le nom.
L'amiral Thrawn. Moi, je pensais plus ou moins ça, puisqu'en plus l'amiral Thrawn, c'est un des personnages qui a été.
Mais ça, c'est dans l'univers étendu.
Non,
ça.
Justement. Alors, il était dans l'univers étendu, mais il a été remis.
Il a été squeezé.
Il a été remis. Non, justement, pas du tout. Il a été remis dans l'univers, notamment par la série Star Wars Rebels.
Ah.
Donc, il est redevenu canon chez Disney, en fait. Et donc c'est potentiellement une des.
Mais c'est pas l'amiral Thrawn qu'on connaît de Timothy Zahn là.
Alors bah si c'est le même.
C'est le même.
Ouais, c'est le même. le personnage bleu et tout.
Ouais, 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 okay.
Alors l'histoire a un peu changé dans Rebels, mais c'est plus ou moins ça, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, ouais, donc c'est vraiment une flotte impériale en plus qui sort de nulle part, puisque les vaisseaux, bah, pour ceux qui ont un peu l'œil, c'est plus du tout les vaisseaux de Nouvel Ordre, c'est vraiment des vaisseaux impériaux.
Comme les croiseurs, là, c'est, oui, c'est
l'Empire.
À c'est
l'époque de la trilogie originelle. Donc il y a quelque chose, on sait pas vraiment ce qui se trame, si c'est des vaisseaux fantômes ou quoi que ce soit, mais voilà, ça. Et puis il y a quand même des scènes qui sont jouissives quand t'es fan de Star Wars, quoi. Le trône abandonné de l'Empereur dans le Destroyer Stellaire, dans l'étoile noire qui s'est échouée sur la planète. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment fan service qui sont.
Il y a des belles images, hein, aussi. Hein.
Donc, ouais. C'est censé être le dernier, ça.
C'est le non, c'est le dernier de la trilogie. C'est le dernier de la trilogie, la sextilogie Skywalker.
Ouais, c'est ça.
Bah, donc, comment on appelle ça.
Je sais pas comment on peut dire.
La nonologie. C'est le dernier de la nonologie Skywalker et c'est celui qui va clore
de l'onologie.
La
nonologie Skywalker.
Bon, bref. Ça, c'est plutôt cool.
Ouais.
Donc ça sort le 20 décembre aussi chez
Exactement.
Nous. C'est
non, le 18 chez nous.
18. Ah oui, c'est mais vrai ouais. qu'il sort un peu avant les États-Unis.
Ouais. Hein.
Ce qui est étrange à chaque fois, mais bon.
Mais ouais, ça fait toujours un truc au cœur quand tu dis que t'as suivi une saga comme ça sur une famille de cet univers Star Wars et que ça va se finir.
Putain, c'est vraiment l'épisode. Peut-être que je vais regarder.
Et à la fin, tout le monde. En fait, c'était un rêve.
Peut-être que je vais regarder les 9 à la fois, à la suite. T'imagines?
Bah franchement, attends, t'attends qu'une bourrée ça sorte.
Je crois que j'ai dû en voir deux en fait de toute ma vie.
T'achètes pour 21 heures d'affilée.
C'est pas grave. Je l'ai fait en deux jours.
Si tu te fais Rogue One et Solo en plus.
Ah ouais, 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 forcément. Eh bien, merci.
Non,
Camille,
fais pas Solo. Non, te fais pas Solo.
Si, moi j'ai beaucoup. Moi j'ai.
Mais arrête, déconne pas.
Mais si,
déconne
bien.
Pas, commissaire.
Si, c'était bien. Solo, c'est insupportable.
Mais ça non, y a un nouveau débat bien. Sur Solo.
Non, pas besoin.
Solo, pas Solo.
On va avoir un autre débat, c'est sur le RPG de l'année peut-être.
Exactement. Ah, merci pour ce thème numéro 1. Donc c'était axé sur Star Wars Fallen Order et Rise of the Sky machin truc. Voilà. J'adore Rise of the Skylanders.
Ok, si tu veux. Si c'est Spyro qui arrive et il déglingue tout le monde.
Exactement. Et si on parlait du thème numéro 2 qui nous amène justement sur.
Non.
Deux gros RPG. Enfin, c'est thème numéro 2 et 2 bis parce que je sais qu'ils vont beaucoup parler tous les deux là.
Non.
Johnny One et Plume.
Parce que moi ça tiendra en 3 mots.
Et on va commencer justement sur un des plus gros RPG jamais sorti dans l'univers vidéoludique ou pas. The Outer Worlds. Johnny One que tu as testé pour nous.
Non, c'est pas un des plus gros RPG jamais sorti, mais c'est ça vaut le détour.
Bah en tout cas tu as bien kiffé.
Ça vaut vraiment le détour, j'ai beaucoup aimé.
Tu vois ce que je veux dire.
Alors est-ce que vous souvenez de Black Isle Studio?
Bah évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'en fait j'ai lu ton test et je sais que tu fais un gros paragraphe dessus au début.
Exactement, un paragraphe relou.
T'inquiète pas.
Ou pas.
Black Isle, Interplay, tout ça,
voilà,
c'est une époque
formidable. C'est des mecs qui ont créé un jeu qui s'appelle Fallout à l'époque.
Ouais, voilà, un petit jeu.
Excusez du peu, un tout petit jeu hein, qui n'a pas du tout marqué les esprits. Mais malheureusement, ce studio, un jour, il a fermé ses portes. Et les anciens de Black Isle Studio ont formé un nouveau studio qui s'est appelé Obsidian. Et là où l'histoire est belle, c'est que malheureusement, Obsidian, du coup, ils n'avaient plus la licence Fallout.
Mais ça y
puisque la licence Fallout, c'est Bethesda qui la récupère au moment où Black Isle met la clé sous la porte. Mais il y a un premier coup du destin qui fait qu'un jour, Bethesda, ils vont voir Obsidian, il leur dit « Tenez, faites-moi Fallout, s'il vous plaît. » Donc les mecs, ils ont créé Fallout, ils ont perdu leur licence, ils ont créé un nouveau studio, et dans leur nouveau studio, ils vont œuvrer à la conception de Fallout New Vegas, qui est un des meilleurs épisodes de la série, tout simplement. Et là, aujourd'hui, il y a un deuxième coup du sort, puisque Outer Worlds, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est on prend cette formule-là, Fallout, Skyrim, etc., une formule qui existe déjà, qui est chez Bethesda, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'adapter à un nouvel univers. Donc là, ce nouvel univers, c'est quoi ? C'est The Outer Worlds. Voilà. Donc on se retrouve avec un jeu d'action RPG assez classique avec des mécaniques qu'on retrouve dans un jeu type Fallout ou Skyrim. Donc notre perso va évoluer.
C'est presque la patte hein, graphiquement.
Graphiquement, je sais pas trop. Je sais pas. Mais non, en tout cas, en termes de gameplay, c'est vraiment ça. Hein. Je veux dire, c'est un FPS. Alors là, il n'y a pas de svav dans ce jeu. On met pas le temps en pause pour viser les parties des ennemis. Dans ce jeu-là, on a à la place un bullet time. Voilà, puisque notre personnage, alors je reviendrai un petit peu sur l'histoire après, mais qui est justifié par le scénario. On va pouvoir looter pas mal d'armes différentes, etc. Les combats, c'est assez classique. En termes de RPG, c'est assez classique aussi. On a notre personnage, on va pouvoir lui faire passer à chaque niveau, on va lui faire gagner 10 points de compétences. À nous de les répartir là où on veut, en sachant que la moitié des compétences du héros, elles vont servir dans les dialogues aussi derrière, c'est-à-dire que même la médecine, la science, l'ingénierie, la piraterie, tout ça peut servir dans les dialogues derrière, même si c'est bien aussi de pouvoir intimider ou de pouvoir mentir dans une conversation. Donc toutes les compétences sont vraiment toutes liées au dialogue aussi. Les dialogues, toujours très très nombreux. On va avoir moult discussions avec les PNJ du jeu. Des discussions qu'on va pouvoir même faire durer en apprenant énormément toute leur vie, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, etc. Voilà. Et à côté de ça, on va avoir aussi un arbre de compétences, de perks, qui lui aussi va être très classique, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, elles sortent tout droit de Fallout, hein, genre pouvoir porter 50 kilos en plus, ce genre de truc, voilà.
Est-ce que tu sens qu'avec tout ça, toi, t'as pu faire le personnage que tu voulais ? Ça, c'est la question que je me pose avec...
Je me suis fait le même perso que dans un Fallout, en fait. Un bourrin qui peut porter masse de trucs.
Ok, d'accord. Pas, mais est-ce que tu avais l'impression quand même que tous ces perks permettaient de les perks plus les points qu'on répartit dans chacun des traits, ça te permet de dire oui on peut jouer l'infiltration, on peut jouer le piratage,
oui,
on peut jouer la discussion.
Tu vas pouvoir mettre des traits plus importants dans tel ou tel truc, bien évidemment. Moi, j'ai fait un perso qui, à la fin, était assez équilibré. Je suis parti sur des bases Fallout, c'est-à-dire que je lui ai mis déjà de base discussion et piratage à fond. Mm-hmm. Voilà. Même si en vrai, c'est pas aussi important que dans un Fallout, puisque, comme je le disais, vraiment tous les traits de caractéristiques vont entrer en compte dans les possibilités de dialogue. Mm-hmm. Voilà. Par contre, non, moi, il y a un truc que j'ai moyennement aimé, je réponds à ta question et je vais un peu sur la conclusion de mon test aussi en même temps. Est-ce que j'ai pu créer vraiment le héros que je voulais ? Non. Et pour une raison très simple, c'est que le jeu il est assez court en fait au final. Voilà. Moi je l'ai bouclé en 30 heures. 30 heures, j'ai pas boudé les 4 secondaires. Vraiment, j'y suis même allé. Il y a des zones, je les ai finies à 100.
Qui est quand même pas mal pour un jeu.
Ouais, c'est
après,
pas mal
t'avais
pour un jeu. Mais...
Pour RPG, c'est pas... ouais,
bah, comparé à, c'est pas si conséquent. À Fallout 4, c'est rien du tout quoi. Mm. Fallout 4, moi j'ai vu les crédits de fin en faisant le même nombre de quêtes.
En fait,
secondaires
surtout,
t'en
voulais
plus. Ouais, moi j'en voulais plus.
Mais surtout par rapport à un jeu Obsidian traditionnel en fait.
Ouais, voilà, voilà, c'est plus court. Hein. Moi, un Fallout, je le fais comme j'ai joué à Outer World. Je fais de la quête secondaire, je fais de la quête principale, je vais chercher du loot. Comme j'ai joué à ce jeu-là, hein. Les crédits de fin, je les vois au bout d'une centaine d'heures, pas au bout de 30 heures.
Mais après ça, c'est quand même un jeu qui démarre indépendant,
ouais.
Qui est sous un label indépendant, ouais. De Take-Two, mais un label indépendant quand même. Donc c'est peut-être pas non plus... c'est pas pour te contredire ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être pas non plus leur...
C'est pas l'expérience triple A, c'est voilà. Sûr. C'est pas la même expérience. D'ailleurs, le prix de revente du jeu s'en ressent. Hein, puisque,
Ah ouais, tout le monde le revend déjà.
Faites gaffe.
Il est vendu moins cher en fait.
Ouais, il est vendu 40 euros. C'est-à-dire que tu le trouves un peu partout, Fnac, Amazon, etc. Mmh. Tu le trouves à 40 euros. Attention,
plus cher que ça,
ouais, attention là, vous l'achetez parce qu'il y a certains revendeurs qui le revendent 60 euros. Voilà. Donc faut faire gaffe là où on l'achète. Faut savoir aussi qu'il est disponible sur le Game Pass. Si jamais on l'a, ça c'est extraordinaire. Mmh. Si on a le Xbox Game Pass. Ouais. Donc, alors oui, c'est vrai qu'il est vendu moins cher de base, mais bon, moi j'étais quand même un petit peu sur ma faim, quoi, de voir les crédits rouler au bout de si peu de temps de jeu que ça. Surtout qu'en plus l'univers qui a été créé pour l'occasion, il est vraiment démentiel quoi. On retrouve un peu. Alors moi je parle de Borderlands et de Fallout dans ma critique.
Borderlands parce que ça fait un peu western.
Ouais voilà parce que ça fait un peu western parce que c'est un peu débile aussi.
Mmh.
Voilà les PNJ, tout le monde est un peu con dans cet univers hein, et tout le monde est un peu con, tout le monde est un peu débile, tout le monde a des préoccupations mais à la mort moelle-neuve. Enfin c'est assez surréaliste même si c'est pas aussi débile que dans Borderlands, c'est-à-dire l'humour est un peu plus fin, c'est un peu plus finaux, c'est pas aussi rentre dedans que Borderlands, mais on retrouve cet humour
débile comme ça, hein, de Borderlands, ouais. Parce que les deux premiers ça allait
un peu mieux. C'était quand même assez stupide aussi. Hein. C'est vrai que j'ai le 3 en tête.
En termes de vulgarité, c'est.
Non,
ça,
le 3 c'est vraiment poussé. Hein. J'ai commencé là il y a pas très longtemps. Franchement,
oui,
ils se sortent mieux avec les deux premiers.
On va leur défoncer les couilles et défoncer la nuit, putain, meilleur ce jeu. Oh le lourd.
Bon, alors c'est un peu moins
vulgos
et tout ce que tu veux que Borderlands 3. Et à côté de ça, on garde cet aspect génial qu'il y avait dans les Fallout, de critique de société au vitriol, associé avec un humour assez noir, assez dur. Là, ça, on le retrouve à 100%. Par exemple, on a plus Vault-Tec du coup dans Outer Worlds, mais à la place on a Spacer's Choice leur maquette, leur mascotte, c'est assez rigolo, c'est un personnage en haute forme avec une tête de lune.
Ah j'adore cette tête.
Le visage de la lune, c'est un troll face.
J'adore sa tête, franchement je trouve ça vachement bien trouvé.
Ouais, non mais c'est assez rigolo. Enfin voilà, donc on retrouve vraiment des similitudes en termes de direction artistique entre les deux univers, que ce soit Fallout Borderlands ou The Outer Worlds.
Par contre,
et du coup,
je trouve que c'est un petit peu moins coloré, too much.
Ouais.
C'est un peu plus soft, je trouve ça plus, beau, plus joli du coup. Moi.
C'est-à-dire
tu bah, c'est moins criard comme il comme,
Oui, colorisation, c'est quand même super. La DA, elle défonce. Hein.
Oui, justement,
quand
je
tu visites des planètes extraterrestres et tout, franchement, tu t'en prends plein les mirettes. Alors, ouais. C'est vrai que graphiquement, c'est pas extraordinaire. Hein, c'est du niveau Fallout 4.
Non, mais quand tu
près.
Dis la patte graphique, elle est, ouais, elle est, voilà. Bien, quoi, elle est bien trouvée.
Le design est vraiment, ouais, super, ouais. Super bien fichu. Et voilà, quoi. Alors, le seul reproche que je pourrais faire au niveau des décors, etc., c'est. Alors, déjà. On est sur plusieurs planètes, donc du coup on n'est pas comme dans un Fallout sur une grande map plus d'accord. ou moins ouverte. Non, là ça va être des petites maps séparées. Du coup ça renforce l'impression de linéarité dans la progression, et malheureusement aussi au niveau des bâtiments. Alors si des fois ce qu'il y a dans les bâtiments ça peut être rigolo, comme par exemple un musée de taxidermistes de créatures spatiales, ce genre de choses, ça vaut le détour. Mais en termes de construction et d'architecture, ça reste quand même pas mal du préfabriqué, quoi. Et ça c'est un petit peu dommage. Voilà, un peu comme dans Mass Effect, je sais pas si vous vous souvenez, le premier Mass Effect, quand on allait visiter
différentes planètes,
bunkers,
on faisait
ouais. C'était toujours le même bunker.
Toujours pareil.
Bon, voilà, c'est un peu toujours les mêmes bâtiments à droite à gauche, même si les plus gros. Par exemple, les villes sont quand même assez identifiables, ça reste assez basique dans la construction. Voilà. Donc. Vraiment, Outer Worlds, c'est vraiment pas mal, parce que c'est une recette qu'on connaît, qu'on adore. Hein. On a joué à Fallout, on a joué à Skyrim, on a joué à tous ces trucs-là, on a vraiment kiffé. Bah là, c'est les mêmes mécaniques de jeu. Hein. Mmh. Voilà, hein, c'est limite un reskinage, quoi, presque. Même si en vrai, les mécaniques, il y a des petites spécificités, comme par exemple, dans le jeu, on peut tomber. On peut avoir des défauts, c'est assez rigolo, ça j'ai trouvé. Par exemple, à force de se battre contre des rats, bah, au bout d'un moment, le jeu va te dire ça y est, maintenant t'as peur des rats. Voilà. Du coup, t'auras moins 25% de dégâts contre les rats, mais par contre, en échange, on te donne un perk. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo. Mmh. Non, donc une formule qu'on connaît, qui fonctionne. Donc ça fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. À côté de ça, bah, l'univers, lui aussi, il tient la route. Vraiment. Hein. On a vraiment un très très gros lore. Tout est développé avec des factions. Un monde dont on va décider du destin. Parce que c'est vrai que ça, je sais même pas parler de l'histoire. Bah,
oui, justement, c'est ce que j'ai demandé.
L'histoire, c'est qu'en fait, on est un colon qui va dans le système Alcyon, qui est un système avec un soleil au milieu, quelques planètes autour, une planète qui ressemble à la Terre un petit peu. Et en fait, nous, on est un colon qui débarque dans cette nouvelle galaxie pour coloniser, sauf que malheureusement, on débarque avec 70 ans de retard, parce que notre vaisseau s'est perdu dans les limbes de l'espace, et les colons, qu'est-ce qui leur est arrivé? On les a laissés dormir en stase tout ce temps-là. D'accord. Donc toi, tu te réveilles, c'est un espèce de scientifique fou qui te réveille, et ce scientifique, il te demande quoi? De l'aider à réveiller les autres colons endormis à l'intérieur du vaisseau, puisque ces colons-là, c'est un peu tous des têtes pensantes, c'est la fine fleur de l'humanité qui n'est jamais arrivée.
Ah oui.
Voilà. Et malheureusement, à cause de cette non-arrivée, la Alcyon, la galaxie, elle périclite, en fait. C'est-à-dire que toutes les corporations qui s'y sont installées, ça marche plus. C'est des usines prison, des usines à mi-chemin entre l'usine et la prison.
Ils se sont développés n'importe comment.
Voilà, ils se sont un peu développés n'importe comment, et du coup, cet univers, il périclite et il est au bord de la rupture, il est au bord de la famine, ça marche plus. Et nous, on débarque là-dedans 70 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre un coup de pied au cul dans toutes ces choses-là, et est-ce qu'on va sauver le monde, ou au contraire, est-ce qu'on va le plonger encore plus rapidement dans le chaos? Voilà. Donc on a un peu les clés du monde entre nos mains. Et c'est et un vrai univers à découvrir, avec plein de factions qui vont nous adorer, nous détester. Là, sur ce niveau-là, en termes de en des termes artistiques, le jeu, c'est une vraie aventure, ça nous plaît de la suivre. En plus de ça, l'univers qui a été créé pour l'occasion, il est vraiment aux petits oignons, il y a énormément de choses à découvrir. Le gameplay, c'est cool, ça tient la route, malgré le fait que ce soit un tout petit peu court. Et la technique, elle est pas formidable, mais le design, ça relève tout ça, quoi. Voilà. Donc au final, c'est un 8 sur 10, c'est très bon. Il y a un indispensable, même avec. Faut vraiment y aller. Si vous aimez les Fallout, si vous aimez les Skyrim, tout ça, qu'en plus vous êtes un peu space opéra, allez-y vraiment. Vous allez aimer, en fait. Voilà.
Okay. Pour mes prochaines vacances, en fin de semaine. Voilà.
Ouais. Si t'as, si t'as un jours. Petit Game Pass, vas-y. Hein. Si
tu... C'est possible, ouais.
Si ils en donnent dans les céréales, hein,
il paraît.
Au du Game Pass.
Voilà. Il paraît.
Donc si tu n'as, pas, si tu n'as même pas de code Xbox Game Pass, tu peux aller t'acheter un paquet de céréales au supermarché et jouer à The Outer Worlds à partir de vendredi.
Ok. Voilà. Bah, écoute, donc, parfait. Bah,
très bien. Écoute, mais ouais, vraiment, si vous, si vous aimez les Fallout, allez-y. C'est
tout
très
bon, bon, tout bon, tout bon.
C'est le seul reproche, c'est vraiment un tout petit peu court. Et pas de post-game. Ça aussi, ça fait râler. Voilà.
D'accord.
Mais bah, ça risque peut-être de changer s'il y a du DLC qui arrive, tout ça. Ouais. Voilà.
Ça roule. Bah écoute, merci beaucoup pour The Outer Worlds. Donc 8 sur 10, indispensable. Le test à lire sur Gameblog par Johnny One. Voilà, voilà, merci beaucoup. On passe au deuxième RPG de l'enfer qui a retenu notre attention. Qui est.
Bah, Disco Elysium.
Exactement, que tu as testé donc et que tu as mis 20 sur 20.
Bah, non, 10 sur 10.
Ah ouais, mais c'est pas grave, exact. 20 sur 20, c'est pareil.
Ok, si tu veux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis 10 sur 10 ?
Bah, je sais pas.
Bah, même moi, je me pose la question
bah,
en
voilà.
fait.
T'as fait une faute.
Il a mal coché, c'est dans le jeu roulant, il a trop scrollé.
Disco Elysium.
Alors, Disco Elysium, c'est un jeu indépendant, un jeu qui est fait par des Estoniens.
Par des humains.
Basés à Londres. C'est un groupe de personnes qui, en fait, se réunissaient d'abord pour faire des jeux de rôle entre eux. Et qui, bah, au fur et à mesure, sont mis à vouloir faire un jeu en lui-même. Ça faisait 15 ans avant son annonce qu'il travaillait dessus. C'était un projet ultra secret. Et on comprend pourquoi il ne sort que maintenant, si ça fait, et pourquoi ils ont taffé aussi longtemps. Parce que c'est un des jeux, enfin, des RPG les plus denses, les plus oppressants en termes de quantité de texte que j'ai jamais vu de ma vie.
Il y a que du texte, quoi.
Ça pourrait être un jeu textuel.
Un jeu textuel.
Vraiment, il n'y aurait pas de problème. Ça pourrait être un livre dont vous êtes le héros. Ça pourrait surtout, à mon sens, être un jeu de rôle sur table. Mmh. Ce qu'on ressent en jouant à Disco Elysium pendant environ 30-40 heures, c'est qu'on a un maître de jeu en fait, qui va incarner tous les personnages qu'on va rencontrer. Et qui va aussi incarner, et c'est une des particularités du jeu, les différentes capacités du personnage principal. Alors, je vais vous expliquer exactement pourquoi je vous dis qu'un maître de jeu peut incarner des capacités. On commence, on est la gueule sur le parquet de notre chambre d'hôtel, complètement bourré, et surtout complètement bourré de la veille, avec un gros problème, c'est-à-dire qu'on se rappelle de rien. On sait même pas qui on est, ce qui est un gros problème. Donc, on va chercher ses fringues, on se rend compte rapidement que rien que le fait de vouloir attraper sa cravate qui est suspendue au plafonnier, bah on peut crever. Rien que de faire ça, on peut crever parce qu'on est vraiment une merde, et il faut le dire. On se rend compte aussi qu'on peut mourir de chagrin parce que après avoir discuté avec une personne, on a le moral tellement dans les chaussettes que bah on est foutu, quoi. On est juste envie de faire une Kurt Cobain. Et une fois qu'on est sorti de cette chambre, qu'on a discuté avec une jeune femme avec laquelle on peut être un gros lourdingue et on le regrette par la suite, eh bien, on va découvrir qu'en fait, on est détective. Inspecteur, pardon, pour être exact. Inspecteur de police, dans un monde totalement fictif, qui est un peu imprégné de disco, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, vous êtes un inspecteur qui est censé enquêter sur un cadavre qui est pendu juste à côté du rad dans lequel vous logez. Et le problème, c'est que vous savez même pas qui vous êtes. Vous savez plus rien, en fait. Et du coup, vos différents traits que vous êtes assignés au début vous ouvrent des capacités avec lesquelles ben, vous allez discuter tout au long du jeu. C'est-à-dire que chaque chose que vous allez faire, à la manière d'un RPG sur table, vous engage à une réflexion sur la possibilité des choses que vous allez vouloir accomplir. Et donc, vous allez vous retrouver à dialoguer, par exemple, avec votre sang-froid, avec votre morale, tout simplement. Tous les trucs que vous pouvez faire, les 24 capacités, vont discuter avec vous et vont dire « Voilà, c'est peut-être pas le moment de faire un truc comme ça. Le moment où vous allez vouloir tirer au pistolet, bah, il faut que votre coordination yeux, mains, soit bien réglée. » Et le problème, c'est que si elle vous dit « Non, mais fais pas ça, hein, ça va te péter dans la main, tu vas te faire mal. » Il vaut mieux l'écouter. Pareil, dans les dialogues, il se peut que vous ayez une propension à être capable de détecter les mensonges, mais peut-être que vous n'aurez pas besoin non plus d'utiliser certaines capacités. Il y a plein de possibilités vraiment qui sont ouvertes grâce à ça, qui vont être probablement améliorées au fur et à mesure quand vous gagnerez de l'expérience. Mais il faut savoir que, comme je vous le disais, on commence, on est une merde, on a très peu de points de qui sont assignés dans les différents traits, et que il faut faire très attention, et il faut savoir parfois attendre un peu avant finalement de retourner un peu plus tard une fois qu'on aura un peu plus d'expérience. Il y a toujours des possibilités différentes, ne serait-ce que par exemple ce cadavre dont je vous parlais, qui est le nœud de l'enquête, le nœud de l'intrigue. Ce cadavre, vous en approchez, vous êtes tellement défoncé et vous êtes tellement pourri que de toute façon vous n'avez pas assez d'endurance et vous allez dégueuler. Voilà, si vous n'avez pas choisi de vous faire un gros costaud qui est capable de mettre des mandales à tout le monde, mais par contre qui a un intellect très limité, du coup, eh ben, vous ne pourrez pas décrocher ce cadavre. Donc il faudra trouver une autre solution pour que quelqu'un le décroche, pour que vous puissiez l'ausculter, pour que vous puissiez savoir un petit peu qui il est, s'il a des signes particuliers et autres. Et en même temps, il faut aussi compter sur le fait qu'il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues au passage. Bref, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte pour un scénario qui est très, très bien foutu, avec différentes missions annexes qu'on va vous confier et que vous pourrez refuser hein, parfaitement. Il n'y a pas de problème à ça. Mais par contre, vous aurez quand même cette envie de vouloir apprendre un peu plus de choses, ne serait-ce que sur l'univers, mais aussi sur les personnes qui vous entourent, parce que elles ont toutes un petit truc à cacher, elles ont toutes une petite faiblesse, et peut-être qu'elles sont liées. Parce que ça, c'est aussi le truc, c'est que vous êtes dans une enquête et peut-être que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont liées à ce meurtre, ce qu'on suppose être un meurtre en tout cas. Et donc, tellement de choses à faire, à voir, tellement de dialogues qui sont drôles, écrits avec extrêmement de finesse, avec un langage qui est très, très soutenu et très beau à lire, très beau à écouter aussi, parce qu'il y a aussi évidemment des voix dans le jeu. Il y a une critique de chacune des philosophies qui existent dans ce monde, que ce soit le communisme, le moralisme, le féminisme, le capitalisme. Le jeu peut vous orienter dans ces directions-là. Vous pouvez vraiment, pour le coup, choisir de faire le flic que vous voulez. Vous pouvez être un gros connard de raciste, comme vous pouvez être le mec le plus droit dans ses bottes, féministe, super sympa et tout. Ça va avoir une influence évidemment sur vos relations avec les autres persos et sur votre enquête, et ça va avoir une influence en fait sur tout, quoi, tout simplement.
Bien sur votre vie, quoi.
Et sur vous-même. Ouais. Il va falloir bien faire très attention à ce que vous voulez. Chaque fois que vous allez opter pour une philosophie, ça va falloir l'étudier d'abord hein, pour vous y intéresser. C'est une espèce de palais mental en fait. Vous allez vous ouvrir à ça, choisir ou non de l'embrasser cette philosophie, et ça vous apportera encore une fois des bonus, des malus, exactement comme avec les vêtements ou les accessoires que vous pourrez porter. C'est beaucoup beaucoup de choses à gérer pour un seul jeu, ce qui fait qu'il est très ambitieux, mais il réussit vraiment dans tout ce qu'il exécute. Vous pouvez le voir aussi d'ailleurs même sur le plan artistique, c'est assez sublime. C'est ça, rappelle les meilleurs moments de l'Infinity Engine de BioWare, mais avec une touche de un peu peinture à l'huile qui est vraiment qui marche à merveille. Quand vous dézoomez, par contre, c'est dommage, ils n'ont pas prévu un dézoom plein, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un écran, un espèce de halo noir au-dessus de l'écran quand vous dézoomez, ce qui est un peu dommage. On aurait bien aimé avoir un plan un peu plus large. Il y a que les déplacements finalement qui posent vraiment un problème, parce qu'il peut y en avoir beaucoup et qu'ils sont assez lents et que le pathfinding est pas forcément génial, et que quand vous allez interagir avec un objet à l'écran, parfois, ou parler avec quelqu'un, parfois le problème c'est votre perso il se place à un endroit très précis, pas ailleurs hein, c'est celui-ci et pas un autre, et donc il faudra parfois l'observer marcher ultra lentement, se tourner super lentement pour enfin être aligné comme il en avait envie. Donc ça fait partie des vrais défauts, mais pour tout le reste, vraiment, si vous avez envie de vous marrer, de découvrir une enquête complètement cinglée, croiser des personnages assez fous, à commencer par le principal qui va avoir des réactions parfois assez délirantes. Vous par exemple, vous voyez là pour les personnes qui ont la vidéo, il y a un moment vous voulez quitter la conversation, et je pense que les vapeurs d'alcool aidant, vous vous dites je vais partir avec un certain panache, et donc vous partez en courant, en vous retournant, en faisant des wads, et vous atterrissez la gueule dans la dame en fauteuil roulant qui était juste derrière, en vous fracassant et en perdant un ou deux points de vie au passage. Et ça, c'est des réactions qu'il a aussi. À un moment, il croise deux petits vieux qui jouent à la pétanque. Mmh. Et moi, je me rappelle que j'ai coché le dialogue un peu rapidement. Et ça, c'est une grosse erreur. Ne cochez pas tous les dialogues quand vous y jouez. Lisez-les bien avant. Et ben ce con-là, il a pris la boule de pétanque et il l'a jeté dans la mer. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et du coup,
ça, c'est irréversible à chaque fois.
Ah oui, puis il vaut mieux. Si vous êtes du genre à sauvegarder avant d'accomplir quelque chose, je vous conseille notamment de le faire avant le karaoké pour pas le louper. Mais avec tous les jets de dés, qu'il y a, toutes les probabilités, il y a des fois où vous aurez envie peut-être de.
De te refaire plein de fois la séquence.
Ouais, plutôt de refaire la séquence après avoir sauvegardé. Mais en ce qui me concerne, je crois qu'il est préférable de vivre le truc pleinement pour bien voir aussi que tout ne se fait pas dans le succès. Les échecs aussi peuvent servir. Et de toute façon, l'histoire en elle-même, vous allez l'apprécier quoi qu'il arrive. Et vraiment, alors là, le 10, je vous le dis tout de suite, il n'est pas usurpé une seule seconde. Si vous parlez anglais, allez-y. Mais allez-y tout de suite. Allez sur GOG, allez sur Steam, chopez-le et éclatez-vous pendant, je vous dis, 30-40 heures sur ce jeu qui est mais clairement un des meilleurs RPG qui est sorti ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Je pense qu'il va faire date. Voilà, tout simplement.
Eh bien, donc, rien que ça. Ça donne envie à tout le monde d'y jouer en fait là.
Bah ouais, j'aime bien ça parce qu'il faut peut-être
se réveiller.
C'est
con que ce soit pas sur console.
Ouais, mais on t'essaie de parler, nous on écoutait. Religieusement, effectivement.
Ouais, ouais.
Non, en plus, il faut pas forcément un PC ultra gourmand pour ce jeu-là, a priori.
Je prends l'impression.
Bah, il faut PC sur lequel t'es la main déjà.
Ouais. Oui. Mais j'ai pas l'impression que ça demande beaucoup de ressources. Je dois avouer que j'ai pas fait gaffe.
Ouais. Bah oui, t'as un PC de bourgeois, forcément, tu t'en fous. Hein.
Un PC de bourgeois d'il y a 4 ans.
Ouais, donc, c'est ça. Elle arrête. Tu vas nous faire pleurer, tiens.
Donc non, pas besoin d'un gros PC et puis voilà. Mais
par contre, il faut du temps quand même, 30-40 heures, bon voilà.
Oui, il faut énormément de temps, mais une fois que vous vous investissez, vous le regrettez pas.
Et même ceux qui connaissent rien du tout au jeu de plateau, tout ça machin, au gros RPG, ou jeu de rôle pardon.
Oui, parce que plateau, c'est encore autre chose. Ouais. Bah oui, c'est enfin, en fait, la perception que vont en avoir certaines personnes, c'est que c'est un point and click parce que il y a pas de combat.
Moi, c'est ça qui m'avait plu dès le départ quand j'avais vu le truc, quoi. Mais
parce qu'il y a pas de combat. Ouais. Et en fait, c'est juste un.
Mais c'est surtout les dialogues qui remplacent tout le reste, quoi.
C'est les dialogues et les probabilités. C'est une somme de probabilités avec des jets de dés, enfin des statistiques qui vont vous dire voilà, ça peut se passer comme ça, donc fais gaffe. Vous pouvez y aller ou pas. Et effectivement, il n'y a pas de combat, donc c'est pas un jeu à XP parce qu'on va aller affronter des orques ou je ne sais quoi. C'est plus un jeu dans lequel l'expérience viendra de ce que vous accomplissez ou pas, de ce que vous réussissez ou pas, de ce que vous allez enquêter ou pas, parce qu'il faut faire beaucoup d'aller-retour, parler aux bonnes personnes, savoir quelle chose va à quel endroit, et des combats. Alors, je vais quand même le dire, il y en a, mais encore une fois, ça ressemble à du jeu de rôle sur table. C'est pas des combats où vous allez avoir
genre en fonction des points que tu as par rapport à l'autre, c'est ça?
En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une description de la situation.
D'accord.
Plus ce qui se passe vraiment à l'écran.
À un moment donné,
et seconde par seconde, ce qu'il se passe en fonction d'autres décisions, des autres, de ce qui vous entoure et de vous-même. Et ça fait vraiment, comme je vous le dis, il y a un maître de jeu qui vous parle et ou alors plein de personnages qui vous parlent à chaque fois. Et c'est vraiment, mais moi personnellement, je sais que je vais me le refaire avec avec une autre approche, parce j'étais parti sur un truc avec un flic plutôt intellectuel et plutôt éloquent, mais je pense que je vais y aller avec un gros bourrin dégueulasse.
Avec ton sac de banane.
Voilà, bah ça c'est ça qui permet de. Voilà, c'est la seule façon de se faire du fric dans le jeu, c'est de ramasser des bouteilles emmenées à la consigne.
Ah ouais. D'accord.
Parce que pareil, il y a le système économique, c'est pas comme dans les RPG classiques. Il n'y a pas de grosse boutique dans laquelle vous allez acheter du loot, vous allez acheter des nouvelles armures et autres.
C'est la débrouille, quoi.
C'est la dèche. Voilà.
La dèche totale.
C'est la méga dèche et c'est beaucoup d'humour.
D'accord. Bah écoute, génial. Je crois que tout le monde va avoir envie d'y jouer maintenant, même Poufy. Il fait genre, ça l'intéresse pas, mais je suis sûr qu'il va le faire. Il va le faire trois fois avec trois approches différentes.
Bah, je crois que Poufy aime pas trop l'anglais, malheureusement.
C'est vrai. Ah oui, par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le gros défaut du jeu pour
ceux
qui.
C'est pas un défaut.
Non, mais. si vraiment t'as envie de le faire et que tu piches que de la langue,
en
tu
France
dis,
c'est un défaut.
Tu dis
faire
c'est chiant
France,
quoi.
Sans doublage.
Ça, je reviens sur Outer Worlds, c'est un défaut aussi. Hein. Pas de voix française.
Oui. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais,
aussi,
mais
sur
c'est
un jeu c'est de GTA
non plus,
il y a pas
de voix. C'est comme en français.
Ouais. Oui, les textes sont en français. Mais là, Fallout 3 qui est sorti il y a 10 ans, lui, il avait les textes français.
Mais que veux-tu, c'est comme ça, c'est la vie.
Donc tout ça pour dire que oui, il est en anglais. Par contre, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec beaucoup de mots français, de phrases françaises,
déjà vous,
un peu de néerlandais aussi. On sent qu'il y a des influences nord-européennes en même temps que ça. C'est tu sens que c'est un roman policier noir qui fait un peu un peu Louisiane, mais tu trouves beaucoup d'inspiration de France, Belgique, Pays-Bas.
Bah c'est pas que des Slovènes alors qu'on bossait dessus. Si.
Des Estoniens.
Des Estoniens pardon. Pourquoi je dis Slovènes moi.
Bah si mais tu peux avoir des inspirations d'autres pays.
Oui c'est sûr.
Et eux ils sont bien inspirés.
D'accord. Bah écoute parfait hein.
Ouais.
Disco Elysium donc 10 sur 10 indispensable.
On va suivre.
Que sur PC et, et peut-être un jour sur console. Peut-être.
J'espère.
Et peut-être un jour en français traduction totale.
Peut-être aussi. Si vont bien et visiblement ça, sur Steam ça a bien marché donc.
Visiblement ouais. Surtout que là le bouche à oreille pour le coup il a l'air de bien fonctionner donc.
Il se prend des notes fabuleuses. Partout.
Exactement. Je crois que tous les confrères ont mis des très grosses notes aussi donc.
Bah absolument.
Merci beaucoup Plume donc pour ce jeu à retrouver en test sur Gameblog si vous voulez lire la prose de Plume. Il y a aucun souci. Et bien voilà c'était le thème numéro 2 donc.
Bis.
Et si on passait au thème numéro 3.
Bah ouais.
Oui, 2 bis, 2 bis, 3. Voilà.
Bah, je sais pas si tu le rajoutes, moi je t'aide.
Et ben c'est la Paris Games Week en fait, voilà. Paris Games Week qui arrive bientôt, donc du 30 octobre au 3 novembre, n'est-ce pas ? C'est
absolument.
La 10ème édition.
Ah, absolument. Et oui, la 10ème édition déjà.
Ils ont prévu de quoi de ouf pour cette édition ?
Par contre, c'est la
10ème édition,
mais c'est pas les 10 ans en fait, c'est bizarre.
C'est bizarre, oui, ça.
C'est la 10ème édition, mais c'est pas les 10 ans.
Parce que ça veut dire.
Bon, bref, on s'en fout. C'est la 10ème édition. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette Paris Games Week ? Bah, beaucoup de choses. Ma foi. Bon, après, c'est sûr que c'est une année de transition, donc vous attendez pas à des jeux extraordinairement neufs, nouveaux, etc., dont on n'a jamais parlé.
Puis ça reste un salon qui est très grand public.
Voilà, c'est pour jouer
forcément,
sur place.
Pas forcément pour voir les blockbusters de l'année prochaine.
Exactement.
Même si. Il y a quand même il y en a qui se sont bien invités.
Exactement.
Et qui vont avoir beaucoup de place. C'est surtout un moment familial.
Voilà, convivial.
Convivial pour des tournois, rencontrer des personnalités.
J'adopte un comportement
qu'on aime
responsable.
Il y a beaucoup de jeux aussi, hein, effectivement, qui seront déjà sortis à ce moment-là.
Et respectueux.
Notamment exactement. Call of Duty, mais il y aura forcément du monde pour y jouer là-bas.
Oui, c'est sûr, il y aura des queues encore de 10 km.
Exactement.
Pour jouer à ces jeux-là, parce que forcément, c'est la semaine de la sortie de beaucoup de jeux, donc les gens voudront sans doute savoir.
Et c'est
ce
bien
que
aussi
avant
pour Noël, pour les gens, les consommateurs,
bien
savoir
sûr,
ce
les parents, les machins.
Pour tester, savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien.
Oui, d'autant qu'il y a des stands en plus qui sont là aussi pour apporter un petit peu de clarté aussi par rapport justement à certaines choses comme le fait de pas vendre forcément des jeux 16 plus à des gamins de des gamins de 10 ans. Il y a des boutiques évidemment, mais oui il y a aussi MO5 par exemple qui en général est là. Il y a des associations qui sont là, Women in Games aussi par exemple.
Exactement.
Sera là. Il y a toujours des coins où on peut découvrir d'autres choses, notamment aussi le stand des jeux français qui est là tous
d'ailleurs,
les ans.
J'ai un sacré listing des jeux français.
Ah bon,
il y a pas mal de choses.
Ah ça je l'avais pas vu,
j'ai tout imprimé. C'est moi qui l'ai imprimé, il est là, regarde.
Ah d'accord.
Il y aura quand même beaucoup de choses hein. Justement on va commencer à parler des éditeurs qui sont sur place.
Ah bah oui effectivement.
Là, c'est surtout effectivement tous les jeux français dans le coin. Ils ont appelé ça comment exactement? La JMF, voilà. Sélection jeux Made in France.
Ah oui bah le stand
alors,
Made in France.
Tu les as sous les yeux hein. Il y a quand même beaucoup. Liste pas tous mais.
Ouais. Tous les ans le stand Made in France prend un peu plus de place. Un tout petit peu à chaque fois.
Pour promouvoir justement les jeux Made in France tout simplement.
Exactement.
Il y a pas mal de bonnes choses hein. Regarde Plectel, ceux qui connaissent pas. Bah, voilà,
ouais, Call of Toulouse, Vampire. Ah oui, il y a Frankenstein Creators aussi. Bah oui, il y a toujours des. Mais il y a pas mal de trucs qui sont déjà sortis.
Oui.
Mais ça va être peut-être l'occasion de découvrir. De belles petites choses.
Oui, il y a forcément
aussi,
des choses à aller voir pour ceux qui connaissent pas du tout. Hein, donc voilà, Wild Run, Race Against the Clock, je sais pas ce que c'est, peut-être
bah,
que c'est bien.
Ça
c'est
génial. Je sais pas du tout.
Hacktag.
Hacktag, oui, absolument.
Piece of Cake Studios.
Ouais, bah, qu'on aurait jamais testé.
Race Against the Clock, c'est le nom du studio, d'accord.
Ah, okay. D'accord.
Ça, c'est pas mal ça, Race Against the Clock, ok, bon.
Ok.
Il y a aussi, par exemple, Legend of Keepers, The Goblins Studio.
Bah, tu sais quoi, on ira.
toute façon.
On ira les voir, on ira faire un tour, oui, on va faire quelques petites vidéos
comme
de
tous les ans,
tout ça, comme tous les ans, exactement. Ça, c'est du côté de jeux Made in France. Il y a aussi, évidemment, les gros éditeurs qui seront là. Par contre, sur Microsoft, on ne sait pas encore grand-chose.
Si, ils auront un truc.
Ils auront un truc.
Ils auront le bar, le bar de Cyberpunk 2077.
D'accord, mais est-ce que tu sais ce qu'ils vont présenter, eux, sur...
Ah bah ça je sais pas.
Voilà,
il faudra demander à Ina Gelbert, je pense.
Ça on l'a pas encore. Et Ina Gelbert, justement, la nouvelle directrice d'Xbox France, qu'on aura en interview, si tout va bien. Je ne préfère pas vous dire à 100%, mais normalement oui, parce qu'on a déjà un créneau avec elle, donc ça sera l'occasion de lui poser plein de questions sur.
Comment ça va déjà ?
Voilà, comment ça va ? Est-ce qu'elle aime la bière et tout ça ? Parce que visiblement c'est une fan de bière, donc.
Ah bon ? C'est dans une interview ?
T'as pas lu ce que j'avais écrit ?
Bah toi, je sais pas, mais.
Elle brasse sa bière elle-même.
Ah.
T'imagines ? C'est quand même balèze. Je sais même pas comment on fait, moi. Tu vois ?
C'est vrai ?
Je te jure.
Bah, tu vas sur YouTube, tu regardes un tuto.
Oui,
c'est
oui,
fini.
Mais bon, c'est du temps et tout, quoi. C'est compliqué. Bon, voilà, on lui posera des questions là-dessus aussi. Entre autres.
Pourquoi pas ?
Puis sur la suite, Microsoft, Scarlett et tout ça.
Qui c'est qui jette des trucs là ?
Il y a des trucs qui
volent dans le studio là. Attends,
et sinon, donc, comme je vous disais, il y a pas mal d'éditeurs qui vont.
Qu'est-ce que j'ai cassé ?
Et notamment Sony qui va faire pas mal de compétitions e-sport. Sur Mortal Kombat 11, NBA 2K20, FIFA 20, Street Fighter 5. Bon, c'est des compétitions qui ont déjà commencé, hein, mais il y en aura aussi sur le salon. Vous pouvez vous inscrire hein, sur.
Oui, et puis il y a Rainbow Six Siege qui sera là, évidemment. La plupart des jeux e-sport sont présents. Sonic a une énorme place hein, cette année.
Oui, ils ont une très grande place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de jeux jouables. Alors, ça, je peux vous les lister si vous voulez. Les jeux jouables sur PS4 Pro chez Sony, il y aura 226 stations de jeux. Et donc 18 jeux sur place. Ils auront un stand de 2700 m² quand même. Donc c'est assez gigantesque.
Ouais, bah c'est la taille des bureaux de Gameblog. Donc forcément, on sait quelle taille ça fait. Hein.
Sur PS4 Pro, FF7 Remake, Marvel's Avengers, Nioh 2, Predator, Concrete Genie, Dreams, Medieval, Kingdom Hearts 3.
Et les trois premiers, c'est la première fois qu'on y joue en France.
Exactement. Hein. Pour les trois premiers, c'est sûr. Dans l'espace e-sport PS4 Tournament, donc. Ce dont je vous parlais il y a deux minutes. FIFA 20, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Call of Duty Modern Warfare, Fortnite, NBA 2K20, Gran Turismo Sport, Crash Team Racing. Bah effectivement, il y aura beaucoup de tournois à ce niveau-là sur ces titres précis.
Tu t'es inscrit ou pas alors du coup ?
Non, je ne suis pas inscrit. Ah.
Johnny, tu t'es inscrit ?
Non, pas du tout.
Mais j'ai peut-être
Crash Team Racing.
J'ai peut-être là avec mon gamin pour la première fois, donc on verra si il joue à Fortnite.
Okay.
Enfin, je ne sais pas s'il aura le droit parce qu'il a 10 ans, donc bon, on verra. Comment ça se passe ?
C'est 10 ans et 2000 heures de jeu.
Attention au Peggy. Hein.
Mais bon, il a fait 24 kills il y a pas longtemps. Là, donc c'est son record, je crois. Tu sais que le record du monde, c'est 46.
Ok.
Bref. Sur PSVR, il y aura aussi des choses sur le stand Sony, Marvel's Iron Man VR. Par contre, c'est des créneaux à réserver sur Marvel Iron Man VR.
Ouais, il faut le faire à partir de l'appli PlayStation Experience.
La VR, c'est typiquement le genre de truc, mis à part l'hygiène, qui est super à tester.
Mis à part l'hygiène.
Non, mais t'inquiète, ils ont des.
Ouais, mais je pense qu'ils
ont des lingettes.
Ils ont des lingettes.
Ouais. Oui. Du coup, c'est pas écologique du tout, mais bon.
Ouais, mais en tout cas, bref, ça coûte cher et c'est vrai que c'est cool pour les familles qu'ils puissent tester, quoi. Parce que ce genre de matos-là, c'est pas accessible partout.
Mais tu sais qu'il y en a de plus en plus dans les parcs d'attractions. Moi, j'en ai vu récemment cet été. Dans chaque parc d'attractions, mettre des trucs verts maintenant.
Dans les ciné aussi maintenant beaucoup.
Romain l'avait pas testé l'appli VR Iron Man.
Il avait
pas testé de l'Adobe.
Non,
je sais plus.
Il y avait trop de lumière.
Ok, d'accord.
Et il y aura Death Stranding, pas en jouable, pas en quoi que ce soit, mais en écran cinéma. Donc,
Parce que Hideo Kojima va venir en fait à la Paris Games Week.
Oui, mais il va venir juste pour faire des dédicaces.
Bah oui, mais bon, il va rencontrer ses fans. C'est le Death Stranding World Tour.
Exactement.
Donc
Paris, Londres et compagnie. Ouais, tout à fait.
Exactement. Donc ça fait partie des temps forts de
exactement.
À prévoir pour la Paris.
Effectivement, ils vont faire un espace dédié spécial.
Je veux dire rencontrer ses disciples, pas ses fans.
Exactement.
Ensuite, Bandai Namco, Cyberpunk 2077, évidemment.
Eh oui.
Ils vont carrément aménager un théâtre juste pour ce jeu. Donc là, j'imagine que ça va être chaud. Qui sera ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h. Donc soyez à l'heure aussi, pareil. Et ça sera pour la première fois le jeu doublé en français qui sera
exactement avec Jean-Pierre Michael qui va être là. C'est le doubleur officiel de Keanu Reeves et qui va on va pouvoir écouter sa petite voix dans le jeu et ça va être plutôt sympa de savoir si ça vaut le coup.
Jean-Pierre Michael, donc tout à fait. Du côté de Square Enix, ils vont avoir des choses sur le stand PlayStation évidemment puisque on parle de FF7 Remake et Marvel's. Et Kingdom Hearts 3 aussi.
Ouais.
Voilà.
Bon,
ils vont squatter le stand Sony carrément. Ils auront quand même un stand pour eux ou pas Square Enix, je sais plus.
Oh, probablement, ouais. Oui. Puis ils ont toujours FF14
avec leur milliard
qui fonctionne
de trucs,
ouais. Du feu de Dieu à chaque fois.
Koch Media aussi va être sur place, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Avec des milliards de goodies à distribuer ou pas?
Bah oui.
Avec, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Fairy Tail, Lensing 2020. Biomutant.
Ah, Biomutant.
Biomutant, ça me l'entend.
C'est peut-être le moment d'aller le voir, tiens, ouais. Biomutant.
Desperados 3, ça c'est pareil, je crois que Camille devrait aimer ce jeu. Ce jeu chelou. Darksiders Genesis, Monkey King, Hero is Back.
Bah, ça fait quelques petits trucs qu'on n'a pas beaucoup vu, voire pas vu du tout.
Exactement, ouais. Là pour le coup, ça vaut, ouais, ça vaut le coup d'œil. Et puis la Paris Games Week Junior, pareil, hein, c'est un espace dédié aux jeux pour les pupilles. Ils vont avoir Super Monkey Ball, Banana Blitz HD, Grid, Monkey King, pareil, donc ça sera sur place dans cet espace dédié. Ah, ces jeux un peu pour les plus jeunes, dirons-nous.
Ouais, ensuite, puis Nintendo, comme d'habitude, qui va avoir un truc énorme.
Avec
sa scène e-sport aussi.
Exactement. Son stand, pareil.
Comme d'habitude. Et là, il y a tellement de trucs encore.
Oh, bah, on peut les lister. Hein,
oh, non, on n'y arrivera jamais. On abandonne.
Ouais, okay,
non, c'est bon. Bah, il va y avoir des trucs qui seront à peine sortis et d'autres qui ne sont pas encore sortis. Hein.
Et alors, ce qui vaudra le coup, c'est surtout Luigi's Mansion 3, j'imagine.
Mais non, c'est Pokémon Épée Bouclier.
Oui, aussi.
Il sera pas encore sorti.
Il sera pas encore sorti, ça va.
Bah oui.
Il sort quand déjà celui-là?
Bah, il sort en novembre.
Ouais, c'est ça. Pokémon Epic Blue Key, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure. Alors, ça, je pense qu'il va y avoir un méga stand où les gens vont s'entraîner.
C'est ça.
Je pense que Plume il pourra faire des démonstrations
je
live.
Déjà chez moi, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est vrai?
Ouais, et puis je pue déjà suffisamment après. Donc, c'est bon.
Zelda Link's Awakening, évidemment, si vous l'avez pas vu ni joué. Super Smash Bros Ultimate, j'imagine avec plein de concours encore de fou. Super Mario Maker 2, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe. Mario Sonic JO de Tokyo 2020, Overwatch Legendary Edition, donc sur Switch. Ensuite, l'aventure Layton, 4L et la conspiration des millionnaires. Witcher 3 Wild Hunt, Trails of Mana, Dragon Quest 11S, Astérix et Obélix XXL3, ah. Le menhir des cristals.
Ah, mais attends, parce que ça on l'a pas vu tourner encore.
Non, c'est chez Microids, mais il ça va être sur le stand de Nintendo.
Ah, il va peut-être falloir aller le voir aussi celui-là.
Tout à fait.
Ouh là 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 là.
Et est-ce qu'il y a Fort Boyard? C'est la question aussi.
Mais non, il n'y a pas Fort Boyard.
Fort Boyard.
Personne ne nous fait Fort Boyard.
Il est déjà sorti depuis longtemps et je pense que ouais, ils ont déjà fait leur beurre dessus. NBA 2K20, Minute of Island, Eastward, B-Simulator, Evo, Hollow Knight, Silksong et The Tourist. Alors, The Tourist, je ne sais pas ce que c'est.
Bah, c'est la suite de The Tourista. Voilà. Je ne sais rien.
Bah, si tu veux. Je sais pas. Touriste avec un Y.
Ouais, bah, je ne sais pas.
Il faudra qu'on se renseigne parce que là, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est.
Bah ouais, ça va faire pas mal de choses.
Il y aura pas mal de choses et puis il y aura évidemment les stands PC, etc. Camille fera un tour,
ah, il va y avoir
un tour chez eux.
Ouais, il y a pas mal de constructeurs qui sont présents, ouais. Hardware, qui présentent des nouveautés. Alors malheureusement beaucoup en interne, donc il y aura pas tout qui sera accessible au public. Quoi,
exactement.
Il y aura quand même des trucs qui seront visibles au public, des produits qui sortent pour Noël. Et ça c'est plutôt cool aussi parce que bah c'est toujours bien de savoir quand t'achètes un clavier, une souris, surtout un clavier, de savoir le ressenti du truc et tout. Surtout qu'il y a des claviers gaming, c'est assez cher, donc c'est plutôt sympa aussi de ce niveau-là. Quoi.
Et puis demander des conseils aux gens qui sont sur place.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aider et donner des conseils.
Exactement.
Ouais, puis il faudra voir. Faudra y aller tout simplement. Nous, on ira le mardi 29 soir.
La soirée presse.
Voilà.
Moi, j'aurai une journée supplémentaire après avec mon gamin normalement.
Tu vas être vraiment dans le dur, toi.
Non, mais je vais aller en touristos.
Tu fais des heures sup.
Je vais aller en touristos, donc.
Ouais.
Ah, mais est-ce que tu t'arrêtes vraiment de travailler même si tu vas avec tes enfants?
Bah, ça, j'aurai pas le
choix. Ça compte plus.
Après, si, tu es toujours là pour serrer des louches et dire bonjour aux gens, c'est sûr.
Mais serrer des louches.
Il y aura tellement de monde, de toute façon, que je pense que je vais passer incognito.
Ah, c'est ce que tu croises.
Écoute, on verra.
Les jeunes gens, le mercredi, je ne sais plus combien.
Non, j'irai pas mercredi, non.
On va faire un jeu à la Paris Games Week. Où est Traz?
Non. Fiche-moi la paix.
Tu mets ton polo rouge et blanc, hein, d'accord, rayé.
T'imagines? Celui qui me trouve, Johnny One, il lui donne tous ses,
non
tous ses goodies, ses goodies. Tous ses goodies de récupérer la rédaction.
Non.
Allez, tant pis pour what. Et ben voilà pour la Paris Games Week, mais de toute façon, on y reviendra évidemment. Hein. Là, c'était juste un petit avant-goût, histoire de vous dire ce qu'il y aura sur place et,
ouais, parce que
et qu'on y sera et qu'on préparera des choses.
Parce que ça manque de conférences, hein, mine de rien, cette année.
Il n'y a pas de conférences, voilà, exactement. Ça fait deux ans qu'on a
depuis qu'ils nous ont annoncé le Ghost of Tsushima. L'annonce avait été faite à Paris, c'était extraordinaire.
Ouais,
parce
qu'on
s'est dit, ah tiens, ça y est, le salon se met un peu à vivre,
bouger,
quoi, à bouger, à
mais
concurrencer
que...
les E3, les Gamescom et compagnie. Ça n'a duré qu'une année.
Non, ils ont fait en 2015 et 2017.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire que là, comme il va falloir annoncer la PS5 probablement en mars,
je pense qu'ils sont trop occupés.
Montrer la Scarlett probablement en juin.
Ils ont plus le temps de faire ça.
voilà.
C'est sûr.
Ouais. C'est de dire ouais, okay.
C'est dommage.
C'est vraiment l'année de transition où,
bah, ouais.
où il faut se contenter de bah, écouter de ce qu'il y a, hein, tout simplement. Voilà, on va faire avec ce qu'il y a et on essaiera de ramener des choses intéressantes.
Ou pas.
Il y aura un peu tout le monde sur le salon, de toute façon, Eva, Eve, nous tous ici. Et voilà, on va se disperser dans le salon et ramener des choses rigolotes, anecdotiques. Toi, tu feras le tour du salon genoux, à genoux.
Ah oui.
Est-ce que Angèle sera là?
Angèle, normalement, il devrait être là, ouais.
Ouais,
enfin, sauf si ceux qui disent qu'ils seront là ne sont pas là. Parce que c'est bien beau hein, de demander des accrèdes, mais si c'est pour pas venir...
Mais c'est pour venir en off le jour d'après, avec, ouais. comme toi avec ton fils, tu sais.
Ah ouais, je viens, ouais, exactement. Peut-être, peut-être. Bon, bref, voilà pour la PGW 2019, 10e édition. Et je crois qu'il est l'heure de parler d'un certain anniversaire désormais.
Ah bon?
Ouais. Quel c'est anniversaire exactement?
Eh bien, GTA San Andreas, qui a 15 ans.
Exactement.
15 ans, putain, 15 ans. Il est marqué sur l'affiche.
Bon, 15 ans, putain. 15 ans, le 26 octobre 2019. Oui, 2019.
Et oui, et surtout que bah, c'est d'autant plus marquant que c'est un jeu qui a marqué énormément la génération de la PlayStation 2. D'ailleurs, c'est le jeu qui est considéré comme le mieux noté de la PlayStation 2 avec 95% de Metacritic.
Wow.
À l'époque, c'est assez extraordinaire. Ça a marqué un tournant aussi dans la saga GTA, parce que c'est le premier GTA à avoir une map aussi gigantesque.
On avait trois villes différentes.
Bah ouais, c'est hallucinant quoi.
Colossal.
Ça se passait dans les années 90, on y incarnait ce bon vieux Carl Johnson. Il y a plein de trucs qui sont sortis de GTA San Andreas, enfin ça a marqué vraiment une époque, il y a eu plein de mèmes internet par rapport à Carl Johnson. Bah d'ailleurs, c'est revenu il y a pas longtemps le fameux
oh shit, here we go again.
Exactement, il y a eu des trucs par rapport à Big Smoke, beaucoup de citations cultes qu'il avait dans le jeu, donc un de ses compères dans le jeu. Il y a des choses aussi qui ont fait parler, notamment le mode hot coffee, le fameux mode coffee qui était un jeu
caché
sexuel en fait qui était caché
dans le code du jeu.
Dans le code du jeu et en fait qui a été accessible uniquement sur certaines versions PC et PS2 et qui devait pas l'être en fait. Et donc du coup, ça a fait un mini scandale, même plus qu'un mini scandale.
Ça a fait un gros scandale.
Ça a fait un gros scandale. Ouais.
Et une grosse pub aussi.
Le jeu a une longue vie puisqu'ensuite en 2013 il est sorti sur Android et iOS, donc le jeu était enfin jouable en mode portable. Le jeu est sorti sur toutes les consoles du coup quasiment. Il est d'ailleurs c'est vraiment un jeu qui a marqué la génération GTA, enfin cette génération là,
et
qui est considéré encore comme aujourd'hui comme l'un des meilleurs GTA de la série.
Il avait pas mal de choses qui étaient
C'est un des plus complets. Voilà. C'est même le plus complet.
Au niveau de personnalisation, il y en a aucun.
Ouais. De pouvoir faire du sport, rien que ça, ça
tu pouvais grossir, tu pouvais
faire
avoir des looks.
Et puis les mini-jeux, c'est un des premiers GTA avec autant de mini-jeux en fait. Il y a autant de possibilités, tu pouvais emmener ta copine, au bar et tout. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient.
Le monde était beaucoup plus vivant. Moi, c'est une des choses qui m'a choqué avec le 4e épisode. C'est que, alors certes, en termes de réalisation, de graphisme, tout ça, on fait un gap en avant. Mais en termes d'immersion et de richesse de l'univers, on faisait deux grands pas en arrière avec GTA 4 par rapport à San Andreas.
Mais je pense que ce qui a marqué aussi, c'est le côté un peu ensoleillé, c'est de la Californie. Ça, il y a eu une grosse différence au niveau ambiance, et du coup, on avait peut-être aussi l'impression que c'était plus vivant. Je sais pas,
mais non, peut-être, ne serait-ce que tu sais, l'internet. L'internet qui regorgeait de secrets, d'easter eggs, tout ce que tu veux dans San Andreas, et qui était limite inexistant dans GTA 4, quoi.
C'est vrai que San Andreas, c'est pas mal de secrets.
San Andreas, c'est le plus complet de tous en termes de features, de gameplay, de jouabilité, de customisation, de tout ce que tu veux.
Même en temps de jeu, on parlait du temps de jeu tout à l'heure, mais c'est hallucinant en termes de temps de jeu. Le temps de faire toutes les maps, enfin toutes les missions secondaires, tous les trucs, enfin c'est trouver les véhicules.
Qui a fini ce jeu à 100%,
franchement. Ouais, c'est...
Non.
C'est quand même un truc de fou, quoi, quand y pense.
Donc c'est vraiment un jeu qui a marqué la PS2 et surtout le jeu vidéo en lui-même. Hein.
Ça a marqué une époque.
Je pense que c'est ce qui a fait, qui a fait encore un gap supplémentaire chez Rockstar en termes de
Vice City, de les avait quand même bien mis en place quand même.
Oui, c'est sûr.
Vice City n'a pas eu la même aura que San Andreas chez les joueurs. Enfin, quand tu parles de San Andreas, c'est vraiment tout de suite celui qui revient en général en premier lieu, quoi. C'est le gros GTA.
C'est vrai que Vice City, il a aussi la cote beaucoup.
Ouais. Je préfère Vice City, moi, mais c'est le côté Scarface en fait.
Ouais, les années 70, Miami, tout, c'était cool. Mais ouais, donc c'était vraiment une belle histoire, un beau jeu, et c'est d'ailleurs tellement que le GTA 5, ils ont repris Oui,
c'est ça, les codes.
Ils ont repris la ville, donc c'était pas pour rien non plus, quoi.
Hollywood, Vinwood, tout ça. Exactement. Bon, bah voilà, les 15 ans de.
Un petit clin d'œil à une chanson de ce jeu que j'adore, qui me faisait péter un plomb quand je l'écoutais vraiment dans la voiture derrière. Ah, après, dans chanter, la vraie voiture, pas dans le jeu. C'était Madhouse de Anthrax. Voilà.
Alors, okay. C'est vrai que le jeu avait une BO.
Ah,
mais
ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, moi je l'ai chez moi.
C'est un as.
Ah oui.
Collector que tu n'auras jamais.
Mais on l'a ici, je crois. Non, on l'a pas ici.
Je sais pas.
Ah, non. Il me semble... non, c'est des BO de GTA 5.
C'est ça, oui, c'est ça qu'on a ici. Et ouais. J'aime bien le blanc qu'il y a eu tout d'un coup. Qu'est-ce pasa por aquí, muchachos? Eh bien, parfait pour cet anniversaire des 15 ans donc, de GTA San Andreas.
You're welcome.
Rappelez-vous, souvenez-vous, si vous voulez sortir des anecdotes, les commentaires, n'hésitez pas. Likez, cliquez, RT et follow. Et voilà, et tout va bien. Et si on passait maintenant tout de suite à un hors-jeu un peu particulier.
Ah bon?
Ah bon?
Un hors-jeu par Johnny One.
Ah bon? Oh. C'est vrai? Moi, j'avais rien préparé, moi.
Non, si, c'est tu vas préparer quelque chose.
Ah bon, ok.
Alors, c'est quoi le hors-jeu de cette semaine?
Ah, si, c'est vrai, je rigole, c'est pas vrai. C'est une nouvelle figurine de Nier Automata que vous pouvez voir. Vous pouvez la voir depuis le début de ce podcast. Là, elle trône fièrement sur notre petite table de podcast. Donc, c'est la dernière. Je vous en avais déjà parlé sur Gameblog. Hein. Mais là, ça y est, elle est là. L'attente est enfin terminée, on peut y toucher.
Pas toucher.
Non, pas touche, hein, Camille, attention.
elle a pas des vrais vêtements comme chez l'autre.
Non, elle a pas des vrais vêtements. Alors bon, ça va être, on va essayer de faire cette chronique de façon un peu radiophonique quand même, que même les gens qui n'ont pas les images puissent nous suivre un petit peu, puisque là Poufy vous balance des images en fait des images constructeurs en vrai de la figurine. Donc jusqu'à présent, nous, qu'est-ce qu'on avait eu à se mettre sous la dent? On avait eu que la, regardez là, un magnifique. Attends, Poufy, si tu peux revenir. Voilà, là il y a un petit effet radiophonique. Elle était cachée depuis le début de l'émission. On avait la première petite figurine qui était celle du collector. Jusqu'à présent, on avait que ça pour se mettre sous la main. Que ça à se mettre sous la main en termes de figurine. Donc vraiment un truc tout petit, un peu pourri, quoi. Voilà, tout
exactement.
Simplement, faut le dire. Hein. Voilà, en plus, c'était vendu 200€ avec le collector, etc. Après, on avait eu une autre petite figurine, mais qui était une Bringards, qui était dans la gamme Playarts, un petit peu, mais des plus petites chez Square Enix, toujours. Mais bon, ça, c'est un peu caca, les figurines articulées de toute façon.
C'est fragile, hein.
Ouais, c'est fragile, ça fait très joué.
Ça dépend, puis articulé, voilà, si tu vas chez Hot Toys, c'est de la qualité.
Oui, c'est vrai. Mais une figurine fixe aura toujours.
Ah non,
oui.
Mon petit cher.
Tu sais, moi, mes Hot Toys, je les aime, hein. J'en ai plusieurs à la maison, hein. Mais ne serait-ce que le Iron Man, tu sais, quand tu lui lèves un peu le bras, tu vois le joint, quoi, tu comprends?
Ouais, bah voilà. Justement, tu lui mets des vêtements.
Ouais.
Et ouais. Par exemple, John Wick de Hot Toys, il est magnifique.
Ouais.
Mais tu l'as eu?
Bah bientôt, j'espère.
Ah bah voilà. Ah. Attends, tu
attends,
sais pas,
il dit qu'il est magnifique.
Mais je l'ai vu,
mais
je l'ai touché, hein. Je l'ai touché, je sais à quoi il ressemble.
Vas-y, Johnny Man, finis là.
Ouais, ouais. Très, il a un stress.
Non, pas du tout. Non, tu vas perdre le fil après.
Il veut rentrer chez lui.
Ah non, non, pas mort.
Ah là là. Non, ouais, donc on disait.
Tu vois, t'as perdu le fil.
Ouais, oui, on a perdu
le fil.
C'est
bizarre,
mais c'est la faute de Camille. Hein.
Voilà, l'expérience de merde.
Donc jusqu'à présent, on avait qu'une toute petite figurine toute pourrie qui valait un bras à se mettre sous la dent. Il y en a une deuxième qui est sortie et qui était aussi pourrie. Voilà, du
mais
coup,
qui
c'était
deux
nul. Non, non, ça va, ça valait pas trop cher la deuxième. Mais très fragile, hein, la mienne est cassée, voilà. Et là, ça y est, bah, on a la nouvelle figurine. Alors c'est cette figurine là que vous pouvez voir sur le plateau, que vous pouvez voir les défilés images devant vous.
Qui n'est
donc,
pas particulier.
C'est du,
hein.
Qui n'est pas particulier, c'est une statuette. Voilà.
Exactement.
On est sur du 1/6. 1/6, ça veut dire que la figurine, elle fait à peu près 30 cm de haut. C'est une échelle qui est pas commune dans le domaine de la figurine, qui va d'habitude plutôt taper dans le soit plus gros, soit plus petit en fait. Donc c'est souvent du 1/7 ou du 1/8 auquel on a droit dans le domaine de la figurine. Là, 1/6, elle est grosse du coup. Elle est grosse et vraiment, elle risque peut-être de déteindre dans votre collection si vous en avez, je ne sais pas. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est du 1/6, mais c'est du 1/6 taille grand. On parlait de Hot Toys tout à l'heure. Cette figurine à l'échelle d'une Hot Toys, vraiment. Voilà. Alors, on pourrait les mettre à côté sans que ça dépareille au niveau de la taille. Là, c'est assez amusant parce que c'est Square Enix directement qui sort la figurine. Alors c'est pas un éditeur qu'on a l'habitude de croiser, hein. C'est pas Kotobukiya, c'est pas Yamato, c'est pas les constructeurs de figurines habituels. Par contre, le sculpteur, on le connaît, lui, c'est Reflect, il s'appelle. Reflect, lui, on le connaît parce que on l'avait déjà vu faire tout un tas de figurines. Par exemple, si vous connaissez Shunya Yamashita, si vous connaissez Evangelion, si vous voyez les figurines qui ont été faites d'Evangelion Bah, ça a été fait par ce sculpteur là. Donc c'est un sculpteur qu'on connaît, qui a déjà fait beaucoup de figurines. Moi j'en ai plusieurs à la maison. Et là, bah, du coup, c'est sa dernière création. Et c'est un monsieur qui est très 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 talentueux. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc au niveau de la pose, tout ça, elle est assez classique, mais quand même, elle est assez dynamique. Ça fonctionne. Alors il faut la foutre un petit peu de côté, parce que si on la regarde trop de face, ça marche pas. Là, un peu comme vous voyez l'image, il y a vraiment un angle. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi. Enfin, de la chance, je ne sais pas, puisque en fait, cette chance, je l'ai payée.
Ouais, ce que j'allais dire. T'as eu un peu de thunes en fait.
Ouais, j'ai mis un peu plus de thunes que tout le monde, voilà. Et du coup, j'ai acheté l'édition limitée de la figurine.
Avec un masque, c'est ça ?
Ouais. Donc, alors attendez, je les ai planqués derrière le canapé. Tac. Voilà. Donc on a un petit visage supplémentaire. On peut lui changer son visage, par exemple. Il y a un deuxième visage. Regardez, c'est tout bête. Hein. Oup, on l'enlève et on repose le deuxième visage. Le deuxième visage où elle n'a plus son masque. Voilà. Il y a une deuxième partie un peu limitée qui est vendue avec la figurine à ce moment-là. C'est il y a un corps secondaire. Voilà. En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient lui changer son buste et on lui met un second buste où elle n'a plus sa jupe et du coup elle est un petit peu dénudée.
Comme
voilà.
On a vu sur les
photos. Ouais, voilà.
Aussi,
on le voit passer sur les images. Alors ça, c'est assez rigolo puisque du coup la figurine, elle est vraiment en kit. Elle se démonte. Les mains s'enlèvent. Les jambes s'enlève, le torse s'enlève et la tête s'enlève. À la fin, c'est un puzzle, le truc, quoi.
Et le pod, il y a que ce pod là.
Ouais, voilà. Et donc le pod, et ben il vient lui aussi dans la version limitée de la figurine. C'est-à-dire la version limitée où vous avez le visage sans masque, vous avez le deuxième corps un peu plus dénudé entre guillemets, et vous avez aussi le pod avec le pod qui est monté sur une petite tige de fer qui est assez détaillée, hein. C'est assez rigolo parce qu'on peut vraiment lui faire bouger les bras, il y a beaucoup d'articulations dessus, etc. Je vais pas trop le faire là parce que j'ai peur de le casser. Par contre, le problème du pod, c'est la hauteur. Il fait 40, monté sur son socle, bien 40 bons centimètres, ça rentre dans aucune vitrine. Absolument aucune vitrine. Ouais. Alors c'est assez rigolo parce que tous les potes avec qui j'en parlais là, sur le net, etc., qui ont aussi acheté la figurine, on a tous le même constat, c'est putain, le pod, il rentre nulle part. On peut pas l'exposer.
Il se baisse pas du tout. Hein.
Non, ouais. Il se baisse pas. Alors moi, quand j'ai reçu la figurine, ce que j'ai fait, c'est
changer
la
tige.
J'avais essayé, tu sais, alors là, regarde, tu vois, c'est le petit bout du pod qui restait. J'avais essayé de le fixer dessus en mode pole dance un peu.
Ah oui.
Il tenait. Mais je l'ai défait une fois et c'est bon, c'est fini, il tient plus jamais.
Sinon, tu peux pas scier le
ouais,
si, la
faudrait scier la base. Enfin, bon, bref. Ouais, mais mais du coup, je l'ai mis à un autre endroit. Et puis, tant pis, c'est pas vraiment le pod, en fait, en vrai, qui m'intéressait surtout. Même si c'est vrai que c'est une petite figurine en plus avec le truc. Même si elle risque d'être vraiment inexposable chez vous, puisque elle est trop grande, en fait, voilà, avec le pod. Au niveau du prix, ça m'a coûté un bras.
Ouais.
Voilà. Ah. Un vrai bras.
Alors il nous faut les chiffres.
Ah, c'est 2000. Tu as les chiffres Koufi de vente. Je crois que c'est 2200 yens. De 22 000 yens, pardon.
Ah oui, parce que 2200 yens, c'est pas très cher.
Non, 2200 yens, c'est pas très cher. Donc, 22 000 yens, c'est le prix de la version limitée. La version pas limitée, 22 500 yens. Ouais.
Donc 22 460, ça fait combien ça?
Ça fait 22 500 yens.
150 euros.
200 euros.
Ouais, 150 euros, je crois.
Ça fait un peu plus quand même. Ça fait. Ah bah tiens, regarde. Poufi va pouvoir sortir le prix. 185 euros. Voilà. Ouais. Donc 185 euros auxquels viennent s'ajouter les frais de port. Alors là, les images qu'on vous montre depuis tout à l'heure,
c'est ça, tu te fais choper.
C'est AmiAmi. Donc ça, c'est le site où je l'ai acheté moi. Alors sur AmiAmi, malheureusement, vous pouvez voir qu'elle est order closed, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'acheter. Là, si vous voulez l'acheter, il va falloir vous rabattre sur le store de Square Enix France où elle risque de douiller sévère. Il va falloir vous rabattre sur eBay où elle risque de douiller sévère puisque elle est sold out partout. Après, vous pouvez tenter le coup dans diverses boutiques d'import de figurines, mais ça risque de douiller. Voilà.
Ou le Bon Coin.
Le Bon Coin, mais ça risque de douiller aussi, encore une fois.
On retrouve des collecteurs.
Non, fallait la précommander.
Des pas trop cher, hein, ça va.
Ouais. Ouais, ouais. Aussi, ils sont chers, hein, quand même.
Oui, c'est vrai, c'est cher.
Parce que le
chocolat est cher aujourd'hui, en même temps. C'est le problème du chocolat, c'est que le prix augmente.
Pour des trucs gratos, c'est cher.
Si, si, c'était cher.
Non, mais la qualité...
Par contre, la qualité,
elle est magnifique.
Non, mais il faut dire ce qui est. Ça vaut largement son prix.
Enfin, les dentelles et tout.
Alors,
je veux dire, c'est...
200 balles, non.
C'est magnifique.
En vrai, c'est un peu cher. Maintenant, tu payes les... Alors, en plus, 200 balles, vous ajoutez 185, vous ajoutez les frais de port. La boîte est arrivée dans une figurine gigantesque. Rappelle-toi, Trace, on aurait dit un carton de déménagement.
Ah oui,
je fais livrer mes colis à la rédac. Oui. On aurait dit un carton de déménagement, le truc, quand elle est arrivée.
Et si en plus vous avez des frais de douane.
Ouais, voilà.
Si vous n'avez pas de bol.
Donc la figurine est arrivée dans un carton géant de déménagement, donc j'ai déjà de base payé des frais de port chers, puisque c'était des frais de port d'un colis volumineux. Ouais. Donc tu peux ajouter bien 40 balles de frais de port, donc on monte à 185-225.
Mais tu sais que c'est aberrant ça d'avoir des gros paquets comme ça pour...
Et je me suis chopé de la douane.
C'est obligé, la douane tu la chopes si c'est les colis volumineux de toute façon.
Ouais, ouais.
Quand c'est cette taille-là, c'est obligé que tu la chopes.
Ouais, ouais. Et donc là, j'ai pas eu de chance, puisque je me suis fait allumer comme jamais, j'avais jamais autant payé de douane
pour le coup, ouais,
de ma vie. Et du coup, la figurine,
Elle revient cher.
Parce qu'en fait, je pense que la douane, tu l'as payée justement par rapport à la taille du colis.
Ouais, ouais.
Et en fait, ils calculent par rapport aux tailles du colis, c'est ça le problème.
Bah, je pense que le colis est pas discret, on va dire. Tu vois,
oui,
c'est pour
sûr.
Ça que je me suis fait épingler. Donc, à l'arrivée, l'addition. Elle est décapitée, la pauvre.
Oui, parce que je regarde le détail en fait.
C'est magnifique.
C'est pour ça que je dis que ça vaut son prix.
La sculpture est sublime.
C'est parce que déjà, le corps en lui-même est superbement détaillé. C'est extrêmement bien gravé.
La finition
tout,
est
formidable. Mais il y a le visage aussi, quoi. On se fout pas de ta gueule quand je vois le visage de la collector du jeu où elle ressemble à rien. Enfin, je veux dire, sa bouche,
est en train de zoomer,
bouche de canard, les lèvres sont même pas peintes comme il faut, le nez il est foireux. Là, c'est le détail du visage est parfait. Quoi.
Et ben les détails, ça vient du sculpteur dont je parlais tout à l'heure, Reflect, qui a vraiment un espèce de style très particulier. Donc, tu reconnais sa patte, hein, vraiment. Mm-hmm. Tu vois que une figurine, ouais, c'est lui qui l'a sculpté et c'est pas un autre, quoi. Et en effet, en termes de finition, même si c'est une marque qu'on connaît pas, à laquelle, du coup, moi, je fais pas forcément confiance en plus. Square Enix, je suis désolé, mais regarde, moi, comme tu dis, la figurine du collector, c'est de la merde. Les Bringards, c'est les Playarts. Je suis désolé si vous collectionnez ça, mais c'est un petit peu de la merde. Voilà. Et là, non, ils nous sortent un truc vraiment, vraiment qualité, quoi. Là, c'est très quali. Ça vaut. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Non, je te dis, avec les douanes, mais ne comptons pas les douanes. Bref.
Bah, sans les douanes, je pense
sans
que
les douanes,
ça, vaut
ça vaut son prix. Et ça reste dans une. Alors, ça reste quand même dans une moyenne haute par rapport au prix pratiqué dans le domaine de la figurine actuellement. Ça aurait été un autre constructeur, tu l'aurais peut-être payé 10 ou 20 euros de moins. Voilà. Mais bon, après, ils surfent sur le succès de la licence, ils savent que ça marche.
Oui,
ils te font une édition limitée qui vend un peu plus cher avec du contenu supplémentaire. Est-ce que ça vaut les 50 euros de différence? Ça, seul le client pourra en juger et
en fonction de sa thune,
Est-ce qu'il achète la version collector ou pas, sachant que en vrai la version le buste dénudé, en vrai on va très rarement l'exposer. Donc, on va surtout exposer sa figurine comme ça à la maison, quoi.
Denis
voilà.
Automate Tiep.
Ouais. Mais voilà, donc
parfait.
Vraiment une magnifique figurine.
Bah oui, écoute.
Une des plus belles pièces de ma collection.
Ils en ont pas fait beaucoup,
pense.
En plus, j'imagine.
Alors, j'ai pas de chiffre vraiment sur la.
C'est toujours en édition limitée.
Sur les prods, mais cette figurine-là, elle était sold out 6 mois avant la, 6 mois avant la sortie.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous voulez l'acheter aujourd'hui, vous risquez probablement de douiller, malheureusement.
Exact.
Déjà que ça douillait pas mal à la base. Donc, si on la veut sous le sapin, faut prévoir le budget.
Ouais. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Johnny One pour cette présentation live de cette figurine qui t'a coûté 4 bras et 2 yeux. Et donc avis aux amateurs, hein, si vous voulez vous la procurer, envoyez un chèque de 50 000 euros à Johnny One. Peut-être qu'il vous la cédera, mais c'est même pas sûr. Parfait. Bah écoute, voilà qui achève ce podcast, cette émission 509, n'est-ce pas? Voilà.
Tout à fait.
Quelque chose à dire en plus ou non? Tout va bien, tout ça va.
C'est super.
C'est super l'après-midi.
On se retrouve à la Paris Games Week le 29.
Exactement.
Si vous êtes partie des invités, venez nous voir, on va boire un coup. Et puis...
On va boire un coup, on va manger des chips.
Et puis on va peut-être se murger la gueule et peut-être que le lendemain on ne se souviendra pas de qui on est, si on est inspecteur ou autre. Tu vois,
tout à fait.
Tout est possible maintenant avec la vie.
Exactement. Si vous passez, écoutez, on sera ravis de vous faire un petit coucou. Et puis voilà. Eh bien écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour l'émission 510. Et puis d'ici là, écoutez, portez-vous bien, jouez bien. Et puis. Merci encore de votre fidélité.
Ciao,
à bientôt.
Salut.